Vous êtes sur RTL.
RTL Petit Matin Week-end. 5h, 7h.
Avec Julien Molcou.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur RTL dans les petits matins du week-end. Et c'est encore un plateau féminin ce matin. Mais oui, que des filles dans ce studio. Pas de Paco, pas de Mathias, ni de Sébastien, mais Béatrice, Aurélia et Oriane qui m'accompagnent. Salut les filles, comment ça va ce matin?
Ça pique un peu, mais ça va.
Ça, c'était donc Aurélia. J'aime cette honnêteté. Et Béatrice, tout roule?
Ouais, ça va.
Bon, et Oriane?
Plus en forme que jamais.
Plus en forme que jamais. Et bien, vous savez quoi? Ça me rassure. Parce que Oriane, c'est vous qui allez accueillir nos auditeurs au 3210 et sur Facebook. Alors, est-ce que vous avez tout bien vérifié? La ligne, l'ordi, c'est bon, tout fonctionne,
exact.
Génial. C'est quoi le numéro des SMS déjà?
64 900.
Parce qu'on adore recevoir des SMS, donc vous n'hésitez pas. Et puis vous le savez, amis auditeurs, hein, le 3210, eh bien c'est le numéro qu'il faut composer si vous voulez nous raconter quelque chose, nous faire un petit point météo, passer un message à un copain, à une copine, ou si vous voulez jouer au...
Paco Mago, je suis pas dive.
Le Paco Mago, ce sera vers 6h45, mais les inscriptions sont déjà ouvertes pour le tirage au sort. Oriane vous attend. Alors, quelques mots du programme de ce dimanche 27 juin. Nous irons à la rencontre d'un entrepreneur qui vit à l'Île-Dieu. Mathias a monté la marque Brigand des Mers. C'est un très joli projet, il va nous raconter tout ça. On aura aussi la chance d'avoir par téléphone Juan Arbelaz, le chef de cuisine colombien que tout le monde s'arrache et qui vient d'ouvrir un nouveau restaurant. De toute façon, on ne l'arrête plus. On parlera de sport aussi, et plus particulièrement d'escrime et même de sabre, puisque nous passerons un moment avec Charlotte Lambard, championne du monde de sabre et qui s'apprête à décoller pour Tokyo. Et puis en fin d'émission, eh ben nous irons réveiller un jeune homme, un chanteur basque qu'on aime beaucoup ici sur RTL. Vous aurez peut-être reconnu le chanteur Patchy. Eh bien, nous irons le réveiller juste avant 7h. J'espère qu'il est matinal. Voilà, vous savez tout. On peut lancer officiellement ce petit matin du dimanche. RTL, il est 5h. Excellent réveil à tous.
RTL, petit matin.
Julia Molcou.
Musique, drapeau arc-en-ciel et danse improvisée dans les rues.
Oui, hier avait lieu la Marche des Fiertés qui, pour la première fois depuis 1977, démarrait en banlieue parisienne et plus exactement à Pantin en Seine-Saint-Denis. Une façon pour les organisateurs de faire en sorte que cette marche ressemble le plus possible à ceux qui l'organisent. C'est ce qu'avait déclaré Mathieu Gatipon-Bachette, le porte-parole de l'inter-LGBT. Sinamir a rencontré pour RTL Santiago qui participait hier à cette Marche des Fiertés version 2021.
Très souvent des gens qui viennent des banlieues, par exemple qui habitent en cité ou dans des quartiers très populaires, et pour eux c'est vraiment très difficile d'assumer leur identité de façon publique parce qu'il y a beaucoup de discrimination, parce que quand on a des mauvaises conditions socio-économiques, malheureusement ça entraîne ce type de problème aussi. Et donc ça aide à donner de la visibilité. Et je trouve que des événements comme ça aident un peu à se mettre dans l'ordre d'idée quelle est la réalité des personnes LGBTQI+. Très souvent c'est de l'ignorance au sens où on ne connaît pas de quoi il s'agit, on a juste une image très stéréotypée des films, je ne sais pas, des années 70-80. Mais j'imagine qu'aujourd'hui à Pantin, il y a des gens peut-être qui ne font pas partie des LGBT, etc., mais qui voient cet événement et se posent des questions ou voient quelque chose de nouveau.
Cette année, à cause de la crise sanitaire et des mesures qui ont été prises pour tenter de la contenir, on estime à 800 000 le nombre d'enfants qui ont été privés de piscine pendant 6 mois. Alors, pendant les grandes vacances, la vigilance sera de mise sur les plages et au bord des bassins. Reportage au Club des Nageurs de Paris dans le 12e arrondissement, Lucas Bouguet.
Dans les vestiaires, carreaux multicolores du sol au plafond, des parents s'inquiètent du retard de leur enfant en natation. Cette maman attend la fin du cours de son fils Adam. Elle sait que le confinement a eu un réel impact sur son niveau.
On va beaucoup en vacances, on a la plage, la piscine. Et la natation, c'était vraiment pour être tranquille cette année, bah non. En fait, c'est vraiment une année perdue. Hein.
Adam sort quand même de l'eau tout sourire.
C'était bien la piscine.
Oui, mais elle est trop froide.
Au bord du bassin, short noir et t-shirt blanc, Denis, entraîneur au Club des Nageurs de Paris, observe cet enthousiasme.
On sent qu'ils ont envie, parce qu'eux aussi, ils le sentent qu'ils n'ont pas acquis autant de choses qu'ils auraient pu faire chaque année.
Laurent entraîne un petit groupe âgé de 5 à 7 ans. Dans l'eau, les effets de la fermeture des piscines se mesurent sur les enfants.
On n'a pas une baisse, mais on a une stagnation. On a des enfants qui s'accrochent toujours sur le bord. Quand en temps normal, on est capable de les faire flotter, sauter en grande profondeur, passer sous des obstacles.
Et pour ceux qui souhaitent partir au bord de l'eau moins inquiets cet été, le club propose un stage gratuit pour les enfants.
Et c'est un quartier encore sous le choc, au surlendemain de la fusillade qui visait deux hommes, bien connus des services de police, en marge d'un match amateur dans le nord de Marseille.
Oui, aujourd'hui, le terrain de la Martine, qui borde l'autoroute du Soleil dans les quartiers nord, restera vide. Les organisateurs sont dépités. Trois semaines de compétition entre cités marseillaises dans une ferveur bon enfant que les tueurs n'ont pas épargné non plus. Des tireurs bien renseignés qui ont surveillé l'horaire du match, qui ont attendu patiemment leurs deux victimes à la sortie des vestiaires. Ces deux hommes, trentenaires, déjà condamnés, qui portaient encore leur maillot de foot quand ils ont essuyé de nombreux tirs de calibre 9 mm. Le premier a succombé sur place, tandis que le second est parvenu à revenir sur ses pas, malgré les balles, à se réfugier dans un couloir sous la tribune où étaient amassés plus de 1000 spectateurs, des familles, des amis qui auraient dû profiter d'une soirée sportive tout à fait normale, mais qui ont eu pour seul spectacle une grande bâche noire installée par la police à la sortie du stade pour dissimuler les corps.
Le variant Delta a déjà fait deux morts dans le Gers.
L'Agence régionale de santé a annoncé la mise en place d'un plan d'action immédiat afin d'agir au plus vite. L'idée étant de dépister, tracer les cas positifs et de vacciner la population rapidement. Des centres de dépistage ainsi que des créneaux de vaccination ont donc été ouverts à Auch et dans deux autres villes du département. Ce variant Delta du coronavirus, plus contagieux, représenterait aujourd'hui entre 9 et 10% des nouveaux cas positifs en France et il pourrait provoquer un rebond à large échelle dès cet été si aucune mesure n'était prise pour le contrer précocement, avertissent spécialistes et autorités sanitaires.
Et c'est aujourd'hui que se tient le second tour des élections régionales.
Dimanche dernier, l'abstention avait atteint 66%, soit deux électeurs sur trois qui ne s'étaient pas déplacés. Alors peut-il y avoir un sursaut entre le premier et le second tour, comme on l'a connu en 2015 ? C'est en tout cas ce que pense Adélaïde Zulfikar-Pasic, directrice de l'Institut de sondage BVA Opinion, interrogée par Benjamin Sportouche.
On peut s'attendre a priori à une hausse de la participation pour deux raisons. La première, c'est que depuis que les élections régionales ont lieu sur deux tours, on a systématiquement observé un rebond de la participation entre le premier et le second tour. Donc il y a peu de chances qu'on déroge à cette règle. Et puis la seconde explication, c'est qu'effectivement, après une participation historiquement faible au premier tour, les appels à la participation se sont multipliés ces derniers jours et on peut imaginer que ces appels vont porter leurs fruits. Il reste à savoir quelle sera l'ampleur de cette hausse de la participation, d'un simple léger rebond à un réel sursaut des électeurs. On sera fixé à l'issue du scrutin.
Une édition spéciale sur notre antenne ce soir, consacrée à ce second tour, présentée par Thomas Soto entre 19h et 23h.
Et on passe au sport avec une première victoire pour le Français Julian Alaphilippe.
Le champion du monde de 29 ans a en effet gagné la première étape et endossé le maillot jaune du Tour de France hier, sur les hauteurs de Landerneau. Julian Alaphilippe a battu de 8 secondes les autres favoris du Tour au sommet de la Fosse aux Loups. Et son panache a été salué par Bernard Hinault, quintuple vainqueur du Tour de France.
Maillot jaune, maillot vert, il a montré vraiment que son maillot, ça n'avait pas été quelque chose qu'on lui avait donné dans une boîte de lessive. Ce maillot jaune, il a été le chercher d'une manière mais qui est fantastique. C'est du rêve pour quelqu'un qui aime le vélo.
Vous, le quintuple vainqueur du Tour, le Dossard 51, vous connaissez ? Il a le même.
Il a le même. Alors c'est peut-être un bon signe. Peut-être qu'il ira jusqu'au bout alors finalement. Parce que moi, avec le 51, j'avais gagné le Tour. C'est peut-être un bon présage. Ça serait une superbe surprise. Mais c'est un coureur qui a du tempérament. Comme moi, je les aime, il ne se pose pas la question. Et ça, c'est le vrai cycliste qu'on adore. Ravi pour lui, ravi pour sa petite femme avec son petit bébé. C'est des grands moments qu'il va vivre.
Bernard Hinault qui partageait son enthousiasme au micro de Christophe Paco. Et puis du sport encore, mais du basket cette fois-ci, avec la qualification hier des basketteuses françaises pour leur cinquième finale consécutive de l'Euro féminin de basket à Valence. Les joueuses, emmenées par Andy Miem, la capitaine de l'équipe, tenteront de remporter le troisième Euro de leur histoire après 2001 et 2009. Elles affronteront la Serbie lors de la finale programmée ce soir à 21h.
Et enfin, un petit mot de foot, Julia.
Les Danois se sont imposés sans trop de difficultés hier face aux Gallois, 4-0. Le Danemark décroche donc son billet pour les quarts de finale de l'Euro. Dans l'autre huitième de finale de la soirée, après prolongation, l'Italie s'est finalement imposée dans la douleur face à l'Autriche, 2-1. Les Bleus, quant à eux, affronteront la Suisse demain soir.
On passe à la météo de ce dimanche 27 juin et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas terrible.
C'est effectivement le moins qu'on puisse dire. Des pluies orageuses vont une nouvelle fois traverser le pays d'ouest en est, en épargnant le pourtour méditerranéen et la basse vallée du Rhône. Mais attention, il faudra compter sur un mistral assez puissant. Dans l'est, avant l'arrivée des orages, la matinée apportera toutefois quelques belles éclaircies. Les températures sont toujours un peu fraîches et comprises entre 12 et 20 degrés ce matin. 13 à Auxerre et Clermont-Ferrand, 15 à Limoges, Poitiers et Amiens, 16 à Paris et Avignon. Dans l'après-midi, les températures seront comprises entre 17 et 32 degrés. Comptez 19 à Bordeaux, 21 à Orléans, 26 à Dijon, 29 à Marseille et 32 à Perpignan. Les courses ce dimanche ont lieu à Vincennes. Voici donc les pronostics de Dominique Cordier. Départ 15h15 avec le 5, le 15, le 10, le 12, le 7, le 6, l'As et la dernière minute, le 10, Carnaval du Vivier. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche 27 juin. Bon réveil à tous, merci d'être avec nous. On marque une toute petite pause et on revient pour l'éphéméride du jour. Bien sûr, à tout de suite.
Réveillez-vous
avec Julia Molcou sur RTL. RTL Petit Matin Week-end.
Julia Molcou.
Bon, alors on va voir si les filles suivent autour de la table en studio. Quel jour sommes-nous ?
Dimanche.
Oui, 27 d'accord. Juin. Merci, 27 juin, c'est ça qui nous intéresse. Parce que là, c'est le moment de l'éphéméride, Oriane.
Ah, oui.
Non, vraiment, je compte sur vous. Alors, le 27 juin 1967, eh bien, les gens découvraient ça.
Voici la première caisse automatique distributrice d'argent liquide 24 heures sur 24, y compris le dimanche et les jours fériés.
Le 27 juin 1967 avait donc lieu, vous l'avez compris, l'installation du premier guichet bancaire automatique. Ça se passait à Londres. C'est une révolution, parce que ça y est, c'est terminé.
Ouais.
On fait plus la queue à la banque à des heures ouvrées. Effectivement, comme c'était expliqué, on peut retirer de l'argent n'importe quand, quand on en a envie. Et c'est très simple. Je vais pas vous faire un dessin, je pense que tout le monde a déjà utiliser un guichet automatique. Bon, ok. Je voulais juste vous filer une dernière information. Ça n'arrivera en France qu'un an plus tard. Voilà, ce sera en juillet 68. Allez comprendre pourquoi.
Les Anglais sont souvent en avance sur nous. Hein.
Ah oui, ouais. Ça c'est votre analyse.
Bah, le chewing-gum hier sur le scanner, c'était les Anglais.
C'est vrai. C'est
américain, mais anglo-saxon, quoi.
Oui, Aurélie a quand même créé un pont très 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 court entre l'Angleterre et l'Amérique, mais bon, pourquoi pas. Allez, dans un registre nettement moins joyeux cette fois, le 27 juin 1983 disparaissait l'une des grandes figures du cinéma français, Louis de Funès.
Croyez-vous aux ovnis ?
On sait bien, j'y crois.
Depuis combien d'années vous pratiquez ce métier ?
Ce métier, alors ça fait longtemps, ça fait déjà 35 ans.
Ouais. Avez-vous le trac pendant les films ?
Ah, bien sûr. Bien sûr, bah, tu ne l'aurais pas, quoi.
Combien de films à peu près ?
Je ne sais pas, j'ai dû tourner dans 200 films, mais j'ai fait des films où j'ouvrais une porte et je la refermais, mais c'est tout. Ou des fois, je ne la refermais pas. C'est tout. Alors j'avais un jour à faire, une heure à faire ou deux heures à faire. Et ça a duré longtemps.
J'adore cette archive. Louis de Funès était au Salon de l'Enfance à Paris à l'occasion de la sortie de La Soupe aux Choux. Et vous l'avez entendu, il répondait donc à toutes ces questions merveilleuses d'enfants. C'est très joli. Un petit mot quand même sur La Soupe aux Choux. Vous l'avez vu ?
Moi, je l'ai vu il y a très longtemps.
Ouais. Oui, mais vous l'avez quand même vu.
Mais
oui.
Quand même vu.
Bon, d'accord. Alors, La Soupe aux Choux, immense succès qui sera son avant-dernier film puisque Louis de Funès n'en tournera qu'un seul ensuite. Vous l'avez ou pas, le dernier Louis de Funès ?
Non.
Le gendarme et les gendarmettes, pas son meilleur, mais qui sortira en 82. Et c'est donc le 27 juin 1983 que s'est éteint l'un des acteurs les plus populaires, les plus aimés français du XXe siècle, en tout cas. Et Aurélia, votre côté sportif vous a rattrapé ce matin. Ceci dit, quand même, le dernier qui vous a vu courir après un ballon n'est pas jeune. Mais je sais que vous avez une info de premier plan et que ça parle de ballon.
Alors tout d'abord, merci Julien de relever mes talents sportifs. Et oui, moi ce matin, j'aimerais vous parler d'un anniversaire de circonstance, le 27 juin 1984, jour historique pour le football français. Pourquoi ?
Mais je ne sais pas moi.
Parce qu'on a gagné un match ?
Non.
Oui, on a peut-être gagné un match.
C'est la première fois que les Bleus remportent l'Euro de football. Score final 2-0 face à l'Espagne.
On joue les arrêts de jeu, le suspense est difficilement soutenable, mais Tigana La Santé ouvre pour Bellone, Tichenet et but. Le but de la délivrance, 2-0, c'est gagné. La coupe ira dans les bras de Michel Platini pour l'équipe de France, la première grande victoire française de l'histoire du football.
Je trouve que ce commentateur manque un peu d'enthousiasme,
oui,
non?
Oui, oui.
On est d'accord.
On est d'accord, ouais.
Parce qu'on est plutôt habitué à des types qui sont complètement hystériques derrière le micro, là. En fait,
ah, ben là, il n'y a pas d'énergie, là, je pense.
Il était sur autre chose.
Trop long.
Oui, alors, ben, c'est ça. C'est ça la vraie raison?
J'en sais rien.
Non, mais on est d'accord, non?
On était plus contenu à l'époque aussi.
Mais attends, on parle de 84, là, pas de 72.
Ben, je sais pas, mais j'étais toute petite, donc je ne sais pas.
Oui, Aurélien, c'est le frère d'Aurélien, peut-être.
Ah, c'est le frère d'Aurélien?
D'accord, très bien. Parce que vu qu'autour de cette table, tout le monde attend ça, voilà.
Mais avec des amis. Allez-y, continuez.
C'est à moi de tester votre culture sportive.
Ah, j'ai hâte.
À chacun son tour. Qui est sûrement aussi étoffée que la mienne, je n'en doute pas. Combien de fois les Français ont gagné l'euro?
Allez, au pif. 3 fois.
Et non.
Bah voilà.
Bien vu.
2 fois.
2 fois.
Bravo, Aurélien.
Vous vous souvenez ou pas de la deuxième fois? Du coup, la première fois,
c'était en 84.
Ouais. Et la seconde fois?
Je devais pas être née.
2000.
Bravo. En 2000, ouais. C'était en 2000, effectivement, face à l'Italie, 2-1. Et on espère évidemment qu'il y en aura une troisième cette année. On y croit en tout cas.
Mais on y croit, ils joueront contre la Suisse demain soir.
Exactement.
Et on regardera ça de très près. Merci beaucoup. Dans quelques minutes, nous irons faire un tour du côté de l'Île-Dieu, où nous rejoindrons Mathias, fondateur de la marque Brigand des Mers. Mais ce sera Louane Leroy, je suis sûre que ça va être incroyable une fois de plus. Voilà, c'était mon commentaire, fin de la parenthèse. Les amis, n'oubliez pas le 32-10, c'est le numéro pour vous inscrire et venir jouer avec nous au Paco Mago. Ce matin, on vous offre des places pour l'exposition Enki Bilal à Landerneau. Les musées, les expos ont rouvert, il faut y aller. D'ailleurs, Oriane, tout à l'heure, vous me ferez un petit compte-rendu
avec
de l'expo
plaisir.
De la Gaîté Lyrique, parce qu'on va vérifier que vous y êtes vraiment allé.
Pas de souci.
On va partir dans quelques instants du côté de l'Île-Dieu, mais d'abord, je crois qu'on a reçu un très gentil message de Patrice, Aurélia.
Eh oui, bonjour les filles, mettez le feu, il est toujours au lit avec sa chérie.
Ah,
on a qu'on de la chance, exactement. Il vient de la petite commune de Port Chiné à la Bolle, la plus belle.
À la Bolle, pas à la Bolle.
À la Bolle, de Montpellier.
Et à côté du Pornichet.
Ouais, Pornichet, je crois.
Pardon, Patrice.
On y était presque. Donc, selon lui, la plus belle plage de l'Ouest.
Mais c'est vrai, c'est la plus grande baie d'Europe. C'est une plage incroyable.
Je connais
cette
pas,
baie
je
de la Bolle.
Jamais allée, c'est peut-être pour ça que j'ai un peu du mal.
Je vais vous inviter à partir
et
au week-end.
Et signe de son petit surnom, Pépi.
Eh ben voilà. Écoutez, Pépi, on vous embrasse hyper fort et j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser. Comment vous avez appelé ça? À Port-Chinet? Non, au Pornichet ou à la Bolle. Bon, cela dit, moi j'en mets régulièrement quelques-unes à côté, donc je vais éviter de trop moquer de vous. Allez, on reste. Vous savez quoi, Aurélia? On reste du côté de la côte atlantique.
Je sens que je vous ai perturbé.
On va aller à l'Île-Dieu, petite île merveilleuse, où nous attend un jeune entrepreneur plein d'avenir. Bonjour la France!
RTL Petit Matin jusqu'à 7h avec Julien Molko.
Bonjour Mathias Lys.
Bonjour Julien.
Alors Mathias, vous êtes l'un des fondateurs de Brigand des Mers. Qu'est-ce que c'est Brigand des Mers?
Alors Brigand des Mers, c'est une marque de vêtements intemporels, éthiques et responsables, inspirés par la mer et engagés pour l'océan et ses métiers durables.
Alors ça fait combien de temps et ça a été fondé où?
Alors ça a été fondé à l'Île-Dieu. C'est maintenant 3 ans qu'on est sur ce projet. Et effectivement, notre histoire, elle démarre sur cette petite île au large de la côte atlantique, l'Île-Dieu, à peu près 16 milles de la côte.
Oui, et moi je vois à peu près à quoi ça ressemble. C'est un endroit assez merveilleux. Où est-ce que vous produisez? Donc en fait, vous produisez des pulls, des t-shirts.
Exactement.
Des vêtements marins, quoi.
Exactement, des vêtements, on essaye d'être le plus intemporel et authentique possible.
Et vous les produisez où, ces vêtements?
Alors, on les produit en France et au Portugal.
D'accord.
Et voilà, en fait, on essaie d'avoir une production...
raisonnée, j'imagine.
Le plus proche possible, voilà, c'est ça. On travaille des matières biologiques, naturelles et renouvelables ou recyclées, en fait. Le but, c'est d'utiliser le moins aucune nouvelle ressource, finalement.
Oui, et puis j'ai vu que quand vous envoyez des vêtements, vous les emballez dans du craft, vous êtes extrêmement vigilant.
Exactement, on a une politique zéro plastique, donc on reçoit nos vêtements sans plastique et on les renvoie avec des papiers respectueux de l'environnement.
Et vous vous êtes associé récemment à un fonds qui protège les océans, c'est Bloom, n'est-ce pas?
Exactement, on travaille avec la fondation et en fait on reverse 5% de chaque vêtement vendu à cette association.
Donc quand on se fait plaisir en s'achetant un très 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 joli pull de marin, en plus,
exactement.
On soutient. Et c'est une association, je tiens à le préciser, qui ne fait pas que nettoyer les océans, mais qui s'intéresse aussi à tous ces métiers, les pêcheurs, c'est ça hein?
C'est ça. En fait, elle joue sur deux axes, la protection des océans, mais aussi elle pense à tous les emplois durables du milieu marin. Et ça, c'est très important. Pour nous, ça a été vraiment le coup de cœur avec cette fondation.
Alors, c'est quoi la suite maintenant pour Brigands des Mers ?
La suite pour Brigands des Mers, en fait, nous, notre objectif, au final, notre mission, c'est vraiment d'utiliser, de se développer et d'utiliser notre activité, qu'elle soit économique ou créative, pour agir au maximum avec des actions concrètes et sensibiliser et impliquer toute cette communauté, qu'elle soit professionnelle ou également de passionnés, dans un pacte, en fait, durable entre l'homme et la mer. Et le but, ça va être de se développer. Notamment, on a ouvert une petite boutique à Belle-Île. Mm-hmm. Et on aimerait bien se développer sur les îles parce que ça nous tient vraiment à cœur. Et c'est là où on se sent le mieux et le plus légitime pour développer nos activités.
Donc, on va peut-être vous voir arriver sur l'île de Léron ou à Bréa ou pourquoi pas à Porquerolles. Vous n'allez pas vous en tenir à l'Atlantique.
Exactement.
On a tout à fait hâte, mais alors à Porquerolles, il fait un peu chaud pour les pulls marins, mais bon, on en reparlera. En attendant, si on a envie de vous rencontrer, Mathias, on peut venir au BDM, à l'Île-Dieu, le bistrot de la marine, à côté de chez Tati Bichon, si mes souvenirs sont bons.
Exactement.
Et là, on peut venir vous voir. Est-ce qu'il y a des pièces de la collection là-bas, ou est-ce que vous avez une boutique à l'Île-Dieu ?
Alors, on a une boutique située rue de la Chapelle, le O8.
D'accord.
Et qui est sur le port, sur Port-Jeanville.
Bon, écoutez, formidable, bravo, c'est une très belle initiative, Brigands des Mers. Si on a un petit cadeau à faire, ça peut être une bonne idée de s'adresser à vous. Longue vie à Brigands des Mers et à très très bientôt, Mathias.
Merci beaucoup.
Au revoir. Sauve tes larmes. Nous ici, il n'y aura pas de larmes, ou alors des larmes de fou rire,
de rire.
Ouais. C'est-à-dire qu'Aurélia ne veut plus lire les SMS, elle est traumatisée par le fait d'avoir dit la bolle est porchinée. Bonjour à tous, si vous nous rejoignez dans les petits matins RTL du week-end, c'est vraiment la meilleure idée que vous ayez eue. Là, bon, il est 5h27, vous n'en avez peut-être pas eu beaucoup encore, mais celle-là, c'est la bonne. Si vous voulez nous écrire un petit message, vous faites comme Damien, là, qui vient de nous écrire un très gentil mot pour nous dire qu'il était en forme et qu'il faisait 17 degrés. Où ça, Auréane?
Je ne sais pas.
À Compiègne,
à Tours,
je crois.
Non,
à Tours, voilà, très bien. Donc vous n'hésitez pas à nous écrire pour nous raconter un peu votre humeur du moment ou vos projets pour ce dimanche 2 juin. Auréane, vous êtes au 3210. Ce ne sera pas Aurélia qui lira vos messages, mais vous pouvez quand même lui écrire à elle. Et on va quand même en profiter là de petites secondes parce qu'on a un peu de temps. Ma chère Auréane, oui. Hier vous étiez censée vous faire un resto et une expo, oui, à la Gaîté Lyrique. Alors,
exactement.
Mais alors ?
Eh bien, un fort bon resto. Je me suis vraiment régalée.
Ouais. C'était où ? C'était quoi ?
Alors, ça s'appelle On the Bab à Olympiade. Poulet frit coréen, leur spécialité. Yeah. Petite
avec
sauce à l'ail.
Mayonnaise, là, c'est ça.
Ouais, mayonnaise à l'ail, ouais. Et petite mayonnaise épicée.
Ouais.
Puis ensuite, bubble tea. Pour ceux qui ne connaissent pas, du thé au lait avec des perles de tapioca.
Ok.
Typiquement
tapioca.
Asiatique. Ouais, tapioca.
Je
très, très bon.
Pas.
D'accord. Et puis,
c'est les petites perles transparentes, la translucide, qu'on sert aussi avec du lait de coco ou de la banane. Très, très bon.
Elles sont plutôt noires quand on les fait dans le sucre.
Okay. Et alors l'expo à la Gaîté Lyrique, c'était quoi ?
Alors c'était le titre, je ne l'ai pas retenu parce que beaucoup trop long, mais alors il y avait en fait plein de jeux de lumière avec du son, etc. C'était vraiment super sympathique. Une petite salle ambiance très très tamisée avec des murs de fumée, des néons un peu partout, voilà, c'est des balançoires.
Bon, la prochaine fois vous me préparerez une chronique un peu plus précise que ça, s'il vous plaît. Titre d'expo, les horaires d'ouverture,
c'est un bon teasing,
le prix du billet.
C'est un bon teasing.
C'est ça. D'ailleurs, vous savez quoi ? Je vais vous laisser quelques instants et vous allez avoir le temps de me préparer un petit mot un peu plus précis sur le sujet. Non mais ça va.
D'accord.
Et le programme aujourd'hui pour vous, Béa, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ?
Alors moi, je travaille encore cet après-midi parce que je réalise RTL Pop Ciné qui sera en direct de la Bolle pour le festival musique de films et cinéma.
Mais bien sûr, très beau festival, voilà. À la Bolle, qui est aussi une des plus belles baies d'Europe. On ne le répétera jamais suffisamment. Dans la prochaine demi-heure, nous, on ira faire un petit tour du côté de la revue de presse déjà, et puis on parlera de cuisine colombienne et non pas bolloise, parce qu'il y a des spécialités aussi à la Bolle, mais on y viendra plus tard. On parlera de cuisine colombienne avec le chef Juan Arbelaz. Voilà, mais là il est 5h30 et tout de suite c'est le rappel des titres.
5h, 7h,
RTL Petit Matin,
Julia Molcou.
À Paris, une jeune femme soupçonnée d'avoir percuté à trottinette électrique une Italienne de 32 ans, décédée des suites de ses blessures, a été mise en examen pour homicide involontaire aggravé par deux circonstances. Le délit de fuite d'abord et un manquement délibéré à une obligation de sécurité et de prudence. Elle a été placée sous contrôle judiciaire. Déjà responsable d'une reprise épidémique au Royaume-Uni et en Israël, le variant Delta du coronavirus, plus contagieux, représente désormais entre 9 et 10% des nouveaux cas positifs positifs en France. Deux personnes âgées de 42 et 60 ans qui n'étaient pas vaccinées et dont l'état de santé était marqué par des facteurs de risque sont décédées au centre hospitalier de Auch dans le Gers. L'Agence régionale de santé a annoncé un plan d'action immédiat pour tenter de contenir la propagation de ce variant, dépister, tracer les cas positifs et bien sûr vacciner. Des centres de dépistage et des créneaux de vaccination ont été ouverts dans plusieurs villes du département. Les deux joueurs de foot amateurs qui ont été la cible de coups de feu vendredi soir à Marseille étaient donc bien connus des services de police. Le premier est décédé sur le coup. Le second a réussi, malgré ses blessures, à aller se réfugier sous la tribune. Et il est encore aujourd'hui dans un état très grave. Tous les deux participaient à un tournoi interquartier dans le nord de Marseille. Tournoi qui se déroulait depuis trois semaines pour le plus grand bonheur des spectateurs, mais qui a bien sûr été suspendu après la fusillade. Du sport maintenant, et déjà une première victoire pour le Français Julien Alaphilippe qui a gagné hier la première étape et endossé le maillot jaune du Tour de France. Aujourd'hui, deuxième étape, 183 500 km entre Perros-Guirec et Mur-de-Bretagne. Départ 13h20. Et puis c'est une victoire des basketteuses françaises hier en demi-finale de l'Euro féminin face à la Biélorussie. Score final 73 à 61. Les Bleus affronteront la Serbie ce soir pour tenter de décrocher le troisième Euro de leur histoire. En fin du foot, lors de la première journée de huitième de finale de l'Euro, le Danemark s'est imposé 4-0 face au Pays de Galles et l'Italie est allée arracher sa qualification après prolongation face à l'Autriche 2-1. Demain, la France affrontera la Suisse et tentera elle aussi de décrocher son billet pour les quarts. On passe à la météo de ce dimanche 27 juin. Attention, des pluies orageuses vont une nouvelle fois traverser le pays d'ouest en est, en épargnant le pourtour méditerranéen et la vallée du Rhône, c'est vrai, mais il faudra compter sur un mistral assez fort. Dans l'est, avant l'arrivée des orages, la matinée devrait apporter toutefois quelques belles éclaircies. Les températures sont toujours un peu fraîches, comprises entre 12 et 20 ce matin. Attendez 13 à Épinal, 15 à Poitiers ou encore 16 à Avignon. Dans l'après-midi, elle remonte un peu, entre 17 et 32. On attend 20 degrés à Périgueux, 23 à Avallon, 27 à Nancy et Carcassonne, 30 à Ajaccio et 32 à Manosque. Le loto, Aurélia, s'il vous plaît.
Alors, c'était une cagnotte de 2 millions d'euros à gagner hier. La combinaison gagnante était le 13, 24, 37, 38, 45 et le 6 en numéro chance. Pas de gagnant ce week-end, mais deux joueurs ont quand même eu la chance de gagner plus de 113 000 euros en trouvant 5 de ces numéros. 110 000 euros, on va pas se mentir, c'est déjà pas mal.
Bon bah ça nous aurait fait très plaisir. Je crois que on a juste oublié de jouer, quoi. C'est ça le problème. Allez, on va faire un tour maintenant du côté des unes de vos quotidiens ce matin. Et à la folie, voilà, ça c'est la déclaration d'amour de l'équipe à Julien Alaphilippe qui, et il l'avait annoncé, est allé donc décrocher le premier maillot jaune du Tour. Changement d'ambiance en revanche en une de la Provence qui s'inquiète que notre été soit celui du variant indien d'une part et qui d'autre part appelle ses lecteurs à aller voter pour le second tour des régionales, tout comme le Parisien aujourd'hui en France, qui titre, c'est très clair, votons. Quant à la Voix du Nord, le quotidien se demande si le second tour mobilisera davantage les électeurs. C'est en effet une des questions en suspens. Enfin, c'est Emmanuel Macron que l'on trouve en une du journal du dimanche. Et selon nos confrères, le président se préparait à remanier son gouvernement, ainsi que le programme de la dernière année de son quinquennat. 8 pages consacrées au second tour, aux coulisses et aussi aux méthodes des sondeurs. Très intéressant dossier, c'est à lire donc dans le JDD. Et vous, Aurélia, vous êtes allée regarder quels étaient les titres les plus lus sur le site rtl.fr. Et je crois qu'il y en a aussi un qui vous a particulièrement amusé.
Exactement. Je vous en parlerai ça à la fin. Mais tout d'abord, pour le site rtl.fr, vous avez été nombreux à vous intéresser aux révélations du New York Times concernant l'immeuble qui s'est effondré en Floride ce jeudi. Selon le quotidien américain, un ingénieur déjà avait signalé en 2018 des dommages structurels majeurs sur le bâtiment. Le bilan ce matin est toujours de 5 morts et 156 disparus. Beaucoup de clics aussi sur les deux soirées test finalement annulées à Paris, faute de volontaires. Et enfin, la découverte en Haute-Marne d'un sarcophage du 7e siècle vous a également beaucoup intrigué. À l'intérieur, les archéologues ont découvert des ossements en parfait état et une bague en céramique.
J'adore cette histoire. Et l'article en plus ?
Alors oui, moi ce matin, je voulais vous parler d'un fugitif recherché depuis plus de 10 ans et qui a été retrouvé sur un site de rencontre. Oui, oui, vous avez bien entendu, un site de rencontre. Selon nos confrères du Parisien, il s'agit de Karim Ouali. En Laval depuis 2011 après avoir tué l'un de ses collègues dans un aéroport en Suisse. Il aurait été aperçu sur une photo du site loveawake.com. Je ne sais pas si vous connaissez, Julia.
Non, celui-là, je ne le connais pas. Voilà. Non, j'en ai fréquenté certains, je le reconnais, mais un peu comme tout le monde, non. Pas forcément. Pardon, Aurélie, je vous en prie.
Il n'y a pas de souci. Il serait donc désormais à Hong Kong et son interpellation semble assez compliquée parce que les autorités hongkongaises refusent de mener une opération contre lui. La justification, le site de rencontre sur lequel le suspect a été repéré n'est pas hébergé sur leur territoire.
Et donc, on ne va pas les arrêter parce que...
Affaire à suivre.
D'accord. Bon, bah, écoutez, très bien. Merci beaucoup, Aurélia, pour toutes ces précisions. Dans quelques instants, nous allons voyager sans quitter votre chambre, votre cuisine ou nous, le studio. Vous connaissez la Colombie? Est-ce que l'une d'entre vous est déjà allée en Colombie?
Non. Jamais.
Non.
Non. Moi non plus. Eh bah, ben, ça tombe bien parce que le chef, c'était pas facile, je sais pas pourquoi j'ai écrit deux mots qui s'enchaînent comme ça. Le chef Juan Arbelaz va nous en parler. Il va nous raconter la cuisine de son pays d'origine. Mais juste avant, on marque une petite pause musicale. Et n'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour jouer au Paco Mago. Mais oui, le Paco Mago, vous le connaissez. C'est ce jeu avec deux questions d'actualité qui vous permet de remporter. Aujourd'hui, par exemple, ce sera des places pour une très belle exposition. Je ne vous en dis pas plus. Je veux quand même saluer Brigitte à Breuil-la-Buissière, dans le Pas-de-Calais, qui nous écrit bonjour. C'est très agréable de se réveiller avec vous. Eh ben, merci beaucoup, Brigitte. En tout cas, nous aussi, on passe un très bon moment. Alors, tant mieux si c'est partagé. Allez, il est l'heure maintenant de partir en voyage. Et là, je me moque pas de vous les filles, et les garçons d'ailleurs, je vous emmène en Colombie.
RTL Petit Matin Week-end.
Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et un kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un beau plateau de pêche ou bien d'abricots.
Y'a plus de saison, y'a plus de saison. C'est ma grand-mère qui avait raison.
Bonjour Juan Arbelaez.
Bonjour, comment ça va?
Ça va super, et vous?
Bah nickel, quand je vous entends, je sais qu'on va parler cuisine et ça me fait du bien.
Ah mais moi aussi ça me fait du bien, d'autant qu'on va pas parler cuisine, seulement cuisine, non. On va parler cuisine colombienne. Vous venez d'ouvrir un nouveau restaurant, de toute façon on ne vous arrête plus. Ça s'appelle Bazurto, c'est à Paris dans le 6e et c'est donc un restaurant colombien. Mais qu'est-ce que c'est la cuisine colombienne? C'est quoi les bases de cette cuisine?
Alors la cuisine colombienne elle est assez méconnue, disons que nous on est un pays qui est assez pauvre à la base, donc on mange des grandes assiettes, c'est en général une cuisine qui est faite pour se nourrir. Après, on a beaucoup de chance parce que la cordillère des Andes se sépare en trois, ce qui fait que on a tous les climats toute l'année, donc pas de saisonnalité en vrai. On a un climat qui est exotique, on est sur la ligne de l'équateur, et ce qui nous permet d'avoir tous ces fruits exotiques, des tomates qui sont gorgées de soleil, une cuisine près de la mer sur les Caraïbes et également sur le Pacifique. Donc beaucoup de poissons entre le maï-maï, le thon, des très beaux pagres et une qualité de fruits exotiques qui sont juste dingues.
Et donc c'est ce qu'on retrouve à la carte de Bazurto. Bon, alors, j'imagine pas des tomates toute l'année parce que nous on n'est pas sur la cordillère des Andes, il n'y a pas de tomates partout chez nous.
Non, exactement. Pour le coup, nous on a voulu faire une interprétation de la cuisine colombienne. C'est pas exactement que la cuisine colombienne, mais moi j'ai été adopté par la France, un très très beau pays. Donc du coup je m'adapte à cette saisonnalité pour vous expliquer un petit peu... Ce qu'on fait en ce moment, on va travailler des plats qui sont plutôt estivales, des plats qui vont apporter de la fraîcheur, qui vont donner envie de regoûter. Donc on est sur, par exemple, des ceviches dans lesquels on va intégrer des fruits exotiques dont je vous parlais tout à l'heure.
Alors attendez-moi, j'ai une question sur le ceviche. Qu'est-ce qu'on utilise comme poisson pour un ceviche? C'est quoi le poisson parfait avec une chair qui se tient et à la fois un peu tendre?
Ce qui est génial, c'est que dans le ceviche, on peut tout se permettre. Après, ça dépend de la découpe, ça dépend du travail qu'on va donner au poisson. Par exemple, quand on va travailler des poissons à chair blanche, quand je parle de poissons à chair blanche, c'est le lieu jaune, cabillaud, le maigre, le bar. Pour ces poissons-là, on peut très bien le découper en dés. Moi, j'aime bien les présaler un peu. Je les mets le filet en entier dans le gros sel pendant 10 minutes. Après, je rince, j'essuie tout l'excédent d'eau et je vais le découper, ce qui fait que mon poisson va être assaisonné à cœur. Donc ça marche très très bien. Mais après, si on utilise des très bons saumons qui sont bio ou une très belle truite, c'est des poissons qui sont assez gras. Si on a des acidités qui sont belles, ça va très bien fonctionner. Je déconseille par exemple la lotte, dans laquelle il y a beaucoup de mâches. Mais si on vient la griller légèrement au début, on va avoir un résultat qui est exceptionnel. Chez nous, on fait même du ceviche avec du poulet. Donc disons qu'il n'y a pas de limite. Hein. C'est juste que le poulet, on le cuit un peu avant. On peut le cuire avant et on peut l'assaisonner avec l'assaisonnement du ceviche.
Le ceviche au poulet. Alors celle-là, je ne m'y attendais pas du tout. Une fois de plus, vous êtes capable de me surprendre. Donc on ferait des ceviches parce qu'on espère que les températures vont recommencer à monter et à avoir un peu chaud à nouveau. Donc le ceviche, on casse le gras, par exemple, du saumon ou de la truite avec du citron, avec de la coriandre, avec de la mangue là aussi. Mais la mangue, c'est pas tellement un fruit de saison là pour nous. On peut pas jouer plutôt avec les pêches, les abricots, les cerises, y a pas un truc à faire ?
Exactement, pêche, abricots, on peut très bien jouer avec. Alors, comme on le disait, le saumon, la truite, c'est des poissons qui sont assez gras. Moi, je préfère, quand j'ai des chairs qui sont plutôt grasses, venir casser avec de l'acidité. Donc, je vais utiliser les premières cerises, je vais utiliser des abricots qui sont pas tout à fait mûrs, les premiers, donc ça va apporter de l'acidité, et beaucoup de citron.
Vous ne vous imaginez même pas dans quel état on est dans ce studio, là. C'est-à-dire que tout le monde a faim, tout le monde se regarde. Mais je ne suis pas un maigre. Ça ne sert à rien de me regarder comme ça, Béatrice. On ne pourra pas m'assaisonner. Un dernier mot, c'est quoi le dessert typique colombien?
Alors nous, on est fan de fruits. Ça, on a une chance énorme, c'est que les fruits, il y en a partout. On mange des guayabas, on mange l'arequipe, qui est un dessert très connu, qui est connu en France comme le dulce de leche.
Ah oui.
C'est ce petit caramel de lait qui est assez exceptionnel. Nous, aujourd'hui, à Basurto, on fait un beau travail avec de la panela. La panela, c'est du jus de canne qui est tout simplement torréfié, mis en caramel. C'est des sucres qui sont non raffinés, donc qui ont beaucoup de goût, qui s'approchent de galabé. C'est des sucres, des caramels de jus de canne, avec un parfum juste exceptionnel. On met ça avec du chocolat, un peu de fleur de sel, et une mousse, une crème très légère au mezcal. Et sinon, bien évidemment, le fruit de la passion, chocolat blanc, avec un petit crumble fumé, et le coulis de fruit de la passion qui va juste par-dessus, c'est juste une dinguerie.
Bon, vous savez quoi, Juan? Je vous envoie l'adresse du studio. Nous sommes quatre dans ce studio, donc vous n'hésitez pas, vous nous faites un panier gourmand, on a envie de vérifier tout ce que vous nous avez raconté. Moi, j'ai envie de goûter un vrai ceviche. Béatrice, t'es d'accord? Faut quand même qu'on vérifie. Et puis, on a envie aussi de goûter ce petit dessert. Donc voilà, vous nous faites un panier, vous nous l'envoyez, on est là jusqu'à 7h. Faudrait quand même que ça arrive dans pas trop trop longtemps.
Bah, je vais prendre le vélo, j'arrive tout de suite. Attendez-moi, j'arrive.
Merci infiniment, Juan, de nous avoir répondu ce matin. Et je ne peux que conseiller à tous de venir goûter votre cuisine colombienne chez Basurto à Paris. Passez une très très bonne journée.
Merci, à très bientôt.
À bientôt, bye bye.
RTL Petit Matin jusqu'à 7h avec Julia Molko.
Et Franck Apo qui nous écrit, qui nous donne son programme. Alors du vélo, un peu de foot, sans effort devant la télé. Ah bah bravo, ah bah bravo. Non, franchement le dimanche...
C'est un sportif comme moi.
Exactement, vous êtes probablement le papa d'Aurélia. On vous salue Franck. On marque une toute petite pause et puis juste après on retrouve l'institutrice préférée de Christophe Paco qu'on embrasse.
RTL Petit Matin, à l'école.
Maîtresse, oh ma maîtresse, ne touche pas à maîtresse.
Même le week-end.
Una mattina, mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina, mi sono alzato. E ho trovato l'invasor.
Bonjour Lisa.
Bonjour Julia.
Et alors là, ce matin, c'est carrément un chant révolutionnaire.
Eh oui, on y va carrément. On va parler de révolution et plus particulièrement du calendrier révolutionnaire. Alors, cette année, c'est aussi les 200 ans de la mort de Napoléon. Mm-hmm. Vous vous souvenez que c'est lui qui a aboli ce calendrier révolutionnaire.
En 1806. Alors,
en 1806.
C'est ça. Et pourquoi déjà? Ils avaient décidé de compter le temps autrement?
Alors, les révolutionnaires, ils avaient remplacé le calendrier grégorien par un système qui s'appuyait sur le système décimal pour qu'on oublie en fait la monarchie et le christianisme. Avec ce nouveau calendrier, on changeait d'air, donc on recommençait à numéroter les années. On redécoupait l'année en 12 mois, mais de 30 jours, ce qui fait que ça faisait 360 jours, donc il fallait 5 jours complémentaires à la fin de l'année qu'on appelait les 100 culottides. Et on a fait commencer ce calendrier le premier vendémiaire an 1, c'est-à-dire le 22 septembre de l'an 1, jour de la proclamation de la République. Voilà, c'est la fin de la monarchie en fait.
Et vendémiaire, ça vient de vendange, c'est...
Voilà, vendémiaire, ça vient de vendange. Mais en fait, tous les noms des mois dans ce calendrier sont tirés de l'agriculture, des métiers artisanaux. Par exemple, germinal, c'est la germination. Fructidor, c'est les fruits. Mm-hmm. Aujourd'hui, le 27 juin, on serait le 8 Messidor. Messidor, c'est les moissons.
D'accord. Voilà.
Le coup d'État de Napoléon, c'est le 18 Brumaire. Brumaire comme la brume, puisque ça s'est passé en novembre. Vous, je crois que vous êtes né un 30 décembre.
Ah, vous êtes très renseigné.
Oui, vous êtes sur Google. Donc le 30 décembre, c'est le 9 Nivose, qui vient de Nives en latin, la neige.
Ah oui, c'est joli, j'aime bien être née le 9 Nivose.
Ben oui, c'est joli.
Bon, donc tout était très différent.
Ben oui, alors on divisait les semaines non plus en 7 jours, mais en 10 jours. Mm-hmm. Primi, Duodi, Tridi, jusqu'à Décadi. Et le 10e jour était le jour de repos. Alors un jour de repos tous les 10 jours, c'est pas très,
non, c'est pas énorme.
Très syndical. Hein.
Oui, c'est ça.
Voilà. Alors, évidemment, les saints patrons, on les a supprimés.
Ouais, évidemment.
Enfin, c'est Fabre d'Églantine, le poète, qui a décidé des noms qu'on mettrait à la place des saints patrons. Donc, on fête les animaux, les fruits, les légumes, par exemple la citrouille, la mandragore, des objets comme l'échelle, la faucille, des matières comme le plomb. Voilà. Il y a même des prénoms de l'an 2, puisque forcément, il y a des gens qui se sont inspirés de ce calendrier pour baptiser leurs enfants.
Et lesquels, par exemple ?
Alors, par exemple, on a des enfants en 2 et en 3 de la République, on a des enfants qui s'appellent Liberté, Égalité, évidemment. Romarin, Chou-fleur, Sarcloir.
Ah oui, c'est pas tous les jours facile, ça, de s'appeler Chou-fleur ou.
Non, exactement, c'est un petit peu difficile à porter. Donc, Napoléon a abrogé ce calendrier en 1806. Mais c'est pas, comment dire, ce n'est pas rare que les révolutionnaires veuillent changer le cours du temps, on va dire. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps en Bolivie.
Ouais.
Le président bolivien, en 2014, avait décidé que les horloges de son pays tourneraient à l'envers. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, ce n'était pas pratique. Mais voilà, donc c'est vraiment un truc de révolutionnaire, voilà, de vouloir changer le temps qui passe.
Bon, eh bien écoutez, merci beaucoup. Moi, je ne suis pas révolutionnaire, donc je ne veux pas changer le temps qui passe et je veux qu'on vous retrouve la semaine prochaine, à la même heure, pour une autre chronique de maîtresse d'école qu'on adore.
Merci Julia, bonne journée.
Bonne journée à vous, à la semaine prochaine. Dansez, si vous voulez voir la chorégraphie d'Oriane sur Lily Cup Voyage en Italie, ça se passe sur mon Instagram dans les stories, vous n'allez pas être déçus. Bon les filles, on va se calmer, on va redevenir bien bien sages parce que là on va accueillir une très grande championne. Elle s'appelle Charlotte Lambard, elle est escrimeuse, membre de l'équipe de France de sabre féminin et championne du monde et elle est notre invitée ce matin.
RTL, les sportifs du week-end.
Bonjour Charlotte Lambard.
Bonjour.
Vous êtes donc une escrimeuse française, championne du monde, parce que ça on le reste toute sa vie, c'était en 2018. Et vous avez une particularité, c'est que vous êtes sabreuse. C'est-à-dire que vous, c'est pas le fleuret votre arme, c'est le sabre. Je voudrais qu'on commence là-dessus parce que je connais pas très très bien la différence moi entre notamment voilà le fleuret et le sabre. Vous dites que c'est une arme qui vous ressemble, qu'elle est plus explosive. Qu'est-ce que c'est le sabre en fait ?
Alors le sabre, c'est une arme qu'on associe aux chevaliers. À l'époque, on combattait aussi sur un cheval, donc tout ce qui était en dessous de la ceinture, il fallait surtout pas toucher parce que le vainqueur remportait le cheval du perdant. Mmh. Donc voilà pourquoi notre particularité est qu'on touche que au-dessus de la ceinture et on touche avec le tranchant de la lame, ce qui est un peu plus guerrier, un peu plus samouraï, qui, oui, me correspond plus et qui est moins dans la patience, plus dans la réactivité et dans l'explosivité.
Comment allez-vous après une année aussi compliqué pour tout le monde, mais pour les sportifs en particulier, l'annulation des Jeux Olympiques en 2020, des Jeux Olympiques à Tokyo dont on ne sait toujours pas, tant qu'on n'y sera pas, s'ils vont avoir lieu ou pas. Comment vous tenez ?
Bah, c'est vrai que l'annonce officielle du report des Jeux, pour ma part, a été un peu difficile, puisque j'avais annoncé que je mettais un terme à ma carrière après Tokyo 2020. Maintenant, pour tous les escrimeurs et pour tout sportif, les Jeux Olympiques, pour nous, c'est quand même le graal absolu, c'est tous les 4 ans. Donc, on prend un peu de temps, on prend du recul et puis on se remobilise pour une année de plus. Ce qui a été difficile pour nous, c'est qu'on a eu une seule compétition entre l'arrêt de nos compétitions et jusqu'au jeu. Donc ça a été très difficile, ça sera difficile au jeu. Maintenant, on est tous pareils, on s'est tous entraînés de la même manière. Donc,
vous allez tirer en individuel ou en équipe à Tokyo ?
Les deux, donc ça j'ai la chance d'être sélectionnée pour les deux. Heureusement que ma saison d'avant s'était très bien passée et que j'avais déjà mis des points en place dans la tête des sélectionneurs. La dernière compète s'est passée correctement et j'ai pris quelques repères, mais une année compliquée, difficile, où des fois le manque de repères, le manque d'objectifs s'est fait ressentir. J'ai fait des petits burn-out à droite, à gauche de temps en temps, mais la motivation remet à chaque fois. Donc,
Est-ce que vous appréhendez quand même un peu ces jeux qui vont être assez uniques en leur genre ? Enfin, on l'espère.
Oui, je les appréhende forcément. J'ai vécu ceux de Rio où c'était la fête. On a vécu ça avec du monde, des spectateurs, du public. Oui, c'est forcément, ça va être différent, mais je le prends vraiment comme des Jeux Olympiques uniques et je vais avoir la chance de vivre ces Jeux Olympiques sous une ère un peu spéciale.
Et de toute façon, le mot d'ordre, c'est l'adaptation depuis un an et demi et la patience. Et je pense que ça sera vraiment notre mot d'ordre là-bas sur place. Donc, on s'y prépare forcément, mais oui, j'appréhende un petit peu, c'est normal.
Alors, un dernier mot. Vous n'arrêtez pas de dire que quand même, vous allez clôturer votre carrière après ces Jeux Olympiques de Tokyo. Je crois savoir que c'est parce que vous avez envie de mener une vie de femme et d'avoir des enfants et de passer à autre chose. Ceci étant dit, il y a Paris 2024. Paris, c'est chez vous, même si vous êtes strasbourgeoise. Mais enfin, c'est votre pays. C'est pas si loin, 2024. Est-ce que vous pourriez peut-être quand même revenir un peu sur cette décision ?
Alors, c'est vrai qu'en 2019, après les Championnats du Monde, j'ai annoncé clairement, fermement, que les Jeux Olympiques seraient ma dernière compétition. Le confinement m'a fait réfléchir, m'a fait prendre du temps. J'ai des amis qui sont mamans et championne, Mélina Robert-Michon, Charline Picon, Laura Glauser, voilà, c'est des femmes que j'admire et qui ont montré l'exemple que voilà, être maman et revenir au plus haut niveau, c'était possible. Maintenant, c'est sûr qu'après Tokyo, j'aurai vraiment un break maternité. Ça, c'est ma volonté première après ces Jeux Olympiques. Je garde dans un coin de ma tête les Jeux Olympiques de Paris parce que c'est à la maison.
Voilà,
et
c'est ça.
Ça sera forcément un challenge. Pourquoi pas relever? Je sais que c'est possible, je sais que y a des exemples qui l'ont montré, donc je me lancerai peut-être ce challenge, mais on verra ça après la maternité.
D'accord, donc à partir du 8 août, ce qui serait la journée de clôture de Tokyo, on ne vous embête plus, on vous laisse tranquille, vous commencez une nouvelle vie, et puis on espère quand même que vous reviendrez, effectivement avec une poussette dans le coin, mais c'est pas grave, revenez, il y aura toujours quelqu'un pour s'occuper du bébé, ce sera très bien.
Tout à fait, en plus à la maison à Paris, il y aura forcément du monde pour s'en occuper.
Mais bien sûr, on se relaiera. Écoutez Charlotte, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre ce matin, on vous souhaite ce qu'il y a de meilleur, évidemment, pour ces Jeux Olympiques de Tokyo et on espère vous retrouver très très vite.
Merci beaucoup à vous.
À bientôt. Bonne journée Charlotte, au revoir.
Merci, bonne journée, au revoir.
5h, 7h,
RTL Petit Matin Week-end
avec Julia Molko.
Et on salue Patricia à Boulogne-sur-Mer qui nous écrit, qu'elle nous écoute avant d'aller travailler. Ou encore Anne à Saint-Vivien qui nous passe le bonjour et qui se réjouit, je crois, de ce Girls Power. Girls Power qu'on va encore compléter puisque dans la demi-heure qui vient, nous retrouverons Hélène Gâteau, notre vétérinaire maison. Je crois que ce matin, elle va nous parler du quart d'heure de folie des chats. Ouais, même si quand on n'a pas de chat, on connaît ce quart d'heure-là où ils deviennent fous, ils sautent partout sur les canapes. Et puis, ce Girls Power, on va encore le compléter plus vite, parce que dans quelques instants, ça va être les informations, et elles sont présentées par Hortense Crépin. RTL, il est 6h. Bienvenue à tous. Et le journal, c'est avec vous Hortense Crépin, bonjour.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
L'inquiétude face au variant Delta grandit en France.
Deux cas de contamination ont été détectés dans le Gers chez des patients décédés. Ils n'étaient pas vaccinés et avaient des facteurs de risque. Et dans le reste du monde, les craintes d'une reprise épidémique se multiplient. Il y a quelques jours, Israël a rétabli l'obligation du port du masque dans les lieux fermés et les entreprises, alors que plus de la moitié de sa population a reçu ses deux doses de vaccin. Le professeur Cyril Cohen est le directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Bar-Ilan.
On voyait une stabilisation au niveau des cas, c'est-à-dire on était aux alentours de 10-20 cas, et puis les cas sont remontés. Ces 3-4 derniers jours, on a entre 100 et 200 cas, et ça c'est un peu alarmant. Maintenant, je veux dire, c'est pas une catastrophe, mais Israël, qui avait quand même une marge d'action grâce à la vaccination, qui continue à protéger, hein, parce qu'on n'a pratiquement pas eu de décès depuis une dizaine de jours en Israël à cause de la Covid-19, Israël a décidé quand même de resserrer un peu la vis, remettre le port du masque obligatoire seulement à l'intérieur. On va voir l'effet que ça va avoir, et en parallèle, on délaye le retour ou l'ouverture de notre ciel, c'est-à-dire qu'au lieu de, on devait l'ouvrir le 1er juillet, finalement on a repoussé ça pour les touristes au 1er août. Et on encourage aussi un peu la vaccination pour les 12-15 ans.
Le professeur Cyril Cohen, directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Bar-Ilan, joint par Christophe Decroix.
Si vous vivez à Strasbourg, vous avez sans doute été réveillé hier matin par un tremblement de terre.
Un séisme de magnitude 3,9 a secoué la ville avant une réplique 5 minutes plus tard. Un événement classé comme provoqué par l'activité humaine plusieurs mois après l'arrêt d'un projet de géothermie. C'est le plus fort séisme ressenti ces derniers mois dans la région, Dimitri Ramelot.
Oui, beaucoup de bruit et une belle frayeur à 5 heures précises à l'info. Fontanelle, conseiller municipal de Strasbourg, a été surpris par l'intensité de la secousse.
Du costaud, j'ai senti la maison
bouger de la gauche vers la droite. Donc c'était vraiment impressionnant. Évidemment, j'étais dans un demi-sommeil. De loin, c'est la secousse la plus intense dans sa force, mais aussi dans sa durée, comme une vibration très forte des murs de haut en bas.
Car depuis plusieurs mois, le sol de l'agglomération vibre régulièrement. La faute à un projet de géothermie consistant à injecter de l'eau sous pression en grande profondeur. Et la dernière forte secousse en décembre dernier avait amené la préfecture à interrompre ce chantier. Jérôme Vergne est sismologue à l'Institut du Globe de Strasbourg.
La magnitude est quand même, elle, relativement importante parce que c'est une magnitude qui est plus importante que ce qu'on avait avant. Donc, ce n'est pas terminé. Il faut être conscient du risque. Il peut y avoir d'autres événements dans le futur.
Pas anormal que les séismes se poursuivent après l'arrêt du chantier, juste le temps pour le sol de se rééquilibrer après des variations de pression dues à l'injection de l'eau.
Dimitri Ramelot. C'est dans deux heures maintenant l'ouverture des bureaux de vote pour le second tour des élections régionales et départementales. Et un chiffre sera scruté, notamment celui de l'abstention. Elle a atteint 66% la semaine dernière. Aux États-Unis, le bilan de l'effondrement d'un immeuble à Miami s'alourdit avec désormais 5 morts. 156 personnes restent portées disparues. Un rapport sur l'état du bâtiment avait noté dès 2018 des dommages structurels majeurs et des fissures dans le sous-sol.
En football, le début hier des huitièmes de finale de l'Euro.
Et la qualification des Italiens pour les quarts après les prolongations en battant l'Autriche. Score final 2-1. L'Italie affrontera donc le vainqueur du match Belgique-Portugal. C'est ce soir à 21h. Match à suivre sur M6. Et puis ce soir, on connaîtra aussi un autre ticket pour les quarts. Le gagnant de Pays-Bas-République tchèque, c'est à 18h, va affronter le Danemark. Victoire hier des Danois 4-0 face au Pays de Galles.
Et les Bleus, quant à eux, affronteront la Suisse demain.
Match à 21h à Bucarest et les interrogations sur la composition de l'équipe alors que l'infirmerie s'est remplie ces derniers jours. Si Lucas Digne espère revenir sur le terrain avant la fin de la compétition, il devrait bien être forfait demain. Lucas Hernandez est lui toujours blessé au genou. Résultat, Didier Deschamps étudie tous les scénarios possibles et notamment l'hypothèse d'une nouvelle défense à 3. Philippe Sanfourche.
Oui, Didier Deschamps veut pouvoir parer à toute éventualité. Et même si le staff médical est confiant, Lucas Hernandez devrait pouvoir tenir sa place lundi. Le forfait quasi certain de Lucas Digne peut obliger d'autres joueurs à dépanner au poste de défenseur latéral gauche. Une mission dont s'est plutôt bien chargé Adrien Rabiot face au Portugal. Mais Presnel Kimpembe, lui aussi, pourrait avoir le profil.
Les joueurs ne sont pas forfaits. En tout cas, jusqu'à nouvel ordre, c'est pas le cas. Et ouais, si le coach il a besoin, si l'équipe en a besoin, je me tiendrai à disposition de l'équipe.
Difficile toutefois de prendre le risque de démanteler le duo Kimpembe-Varane qui offre des garanties au cœur de la défense. Didier Deschamps pourrait donc opter pour un changement radical de système de jeu. Une défense à 3 renforcée par le Barcelonais Clément Lenglet. La formule a été testée hier à l'entraînement. De quoi brouiller les pistes aussi pour l'adversaire suisse. Jusqu'au dernier moment, les Bleus feront durer le suspense.
Philippe Sanfourche, envoyé spécial de RTL à Bucarest. Et donc un gros programme sportif ce dimanche en Formule 1, le Grand Prix de Styrie. À 15h avec Max Verstappen en pole position devant Lewis Hamilton. 6e position pour Pierre Gasly, 11 places devant Esteban Ocon. Et puis une heure plus tôt à 14h, ce sera le Grand Prix des Pays-Bas en MotoGP. En pole position, l'Espagnol Maverick Vinales devant Fabio Quartararo. Johan Zarco partira lui en 5e position. Du basket aussi et direction la finale de l'Euro pour les joueuses de Valérie Garnier. Pour la 5e fois consécutive, elles se sont qualifiées hier en battant la Biélorussie 73-61 et vont donc tenter de remporter le 3e titre de leur histoire, rencontre à 21h face à la Serbie. Et puis chez les hommes, Villeurbanne, sacré champion de France pour la 20e fois de son histoire. Victoire hier face à Dijon, 87-74.
Enfin, une première étape mouvementée hier pour le grand départ du Tour de France.
Et Julien Alaphilippe qui a troqué son maillot arc-en-ciel de champion du monde pour un maillot jaune. Victoire au sommet de la côte de la Fosse aux Loups, mais une étape avec deux très grosses chutes dans le peloton. Et la première provoquée par une spectatrice qui s'est penchée avec sa pancarte lors du passage des coureurs, visiblement pour être bien vu sur les caméras de télévision. Résultat, un carambolage énorme. Le parquet ouvre une enquête pour blessures involontaires.
Et la deuxième étape aujourd'hui, c'est toujours en Bretagne.
182 km au départ de Perros-Guirec, avec une arrivée prévue au sommet de la côte de Mur de Bretagne, près du lac de Guerlédan. Le départ est prévu à 13h20. Ce sera à suivre toutes les demi-heures sur RTL. Et puis à 18h30, ne manquez pas le Club Jalabert, présenté par Christian Olivier.
Allez, on passe à la météo et toujours des pluies aujourd'hui.
Oui, des pluies orageuses qui vont traverser le pays. pays d'ouest en est. Le pourtour méditerranéen et la basse vallée du Rhône seront épargnés, mais il y aura un mistral assez fort. Dans l'est, quelques éclaircies avant l'arrivée des orages. Les températures toujours un peu fraîches ce matin, de 12 à 20 degrés. Comptez 13 à Clermont-Ferrand, 15 à Limoges et 16 à Paris cet après-midi, de 17 à 32 degrés.
Et on termine avec les courses qui ont lieu à Vincennes cet après-midi.
Avec un départ à 15h15, les pronostics de Dominique Cordier, le 5, le 15, le 10, le 12, le 7, le 6, l'As, la dernière minute, c'est le 10, Carnaval du Vivier.
Merci beaucoup Hortense Crépin, on vous retrouve tout à l'heure aux côtés de Stéphane Carpentier.
À tout à l'heure.
Quant à nous, on marque une toute petite pause et on revient avec le meilleur de Laurent Gérard. Excellent réveil à tous, vous êtes sur RTL, à tout de suite.
Bon réveil sur RTL avec Julia Molcou.
Dans notre belle Provence aussi, l'été est arrivé, vous le savez, Monsieur Calvi, avec la belle saison, les touristes sont au rendez-vous. Retrouvons la garrigue éternelle de Pagnol et le vallon des Darmanins grâce à notre saga provençale Macron des Sources avec Daniel Auteuil et Yves Montand. Alors messieurs, je vous remets ça ou je vous débarrasse? On a du monde qui attend.
Mais Marinette, on vient à peine de finir notre pastis. On peut pas causer un peu tranquillement, le papé et moi, à l'ombre des tilleuls?
Mais comprends-moi, Hugolin, c'est pas contre toi et le papé que je dis ça, mais les gens de la ville, ils sont arrivés. Ils ont réservé la place pour le déjeuner. Alors ma terrasse, il faut bien qu'elle tourne, non?
Ah, mais dis-moi, qu'est-ce qui te prend, Marinette? Tu te crois où? À Saint-Tropez? On n'est pas assez rapide? J'ai vu ta carte d'été, l'assiette de crudité 35 euros, le bar en croûte de sel 150 et le verre de rosé à 9 euros.
Mais papé, c'est du rosé de Miraval, le domaine de Brad Pitt.
Hein? Brad Pitt, tu as dit. Mais ça pourrait être du rosé à Marlon Brando, c'est pas une raison. En plus, il est bio, ce rosé au Brad Pitt. Je suis sûr qu'il donne autant la courante que celui de notre mère, le bossu.
Oh, comme vous y allez, papé. Vous savez bien que les gens de la ville, ils nous aident à faire revivre le village.
Et elle a raison, papé. Après la maladie qu'on a eue, on est bien content qu'ils soient là, tous ces touristes.
La maladie, tu as dit? Mais c'est eux qui la portent, la maladie. Ils s'agglutinent comme des écrevisses. Regardez les galinettes. Ils sont tous habillés pareil, avec la chemise en lin, le bermuda corail. Les bateaux, les lunettes bleutées, le Panama et le cigario. Ils ont même l'air contents de se faire plumer.
Et il faut un peu être patient, papé. Ils vont repartir à l'automne.
Ah, mais on va pas passer l'été à attendre l'automne et à payer notre pastis comme si c'était du rosé à Brad Pitt. Tiens, on va faire courir le bruit qu'on a le variant indien dans le village. Et comme on dit chez nous, indien vaut mieux que de Tuloura, pas vrai? Tu vas voir. Tu vas aller voir des guerpires fissa, les gens de la ville.
Mais, papé, Macron, il a dit que les touristes allaient relancer l'économie. Et moi, je l'aime, Macron. Je l'aime comme c'est pas permis. Je t'aime, Macron.
Et vous retrouvez évidemment Laurent Gérard tous les matins de la semaine à 8h45 dans la matinale d'Yves Calvi. Avant de retrouver Hélène Gâteau, notre vétérinaire qui ce matin donc va nous expliquer pourquoi les chats ont ce fameux quart d'heure de folie. Un peu de musique avec Oshi. Excellent réveil. Avant de retrouver Hélène Gâteau, notre vétérinaire, qui va nous éclairer sur un comportement complètement dingue qu'ont les chats.
RTL Petit Matin Week-end.
Julia Molcou.
Bonjour Hélène.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Alors ce matin, vous nous parlez d'un phénomène qu'on connaît tous, même sans avoir de chat à soi. C'est le fameux quart d'heure de folie chez le chat. Mais qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est un moment dans la journée qui ressemble à une sorte de défoulement du chat. Il va se mettre à miauler, se lancer dans des courses effrénées dans l'appartement, renverser des objets, voire vous attraper les mollets. Mais plus qu'un exutoire, c'est la manifestation d'un état d'anxiété qui surgit souvent au crépuscule ou à l'aube, mais aussi parfois en pleine nuit lorsqu'il va s'immiscer dans votre chambre, s'attaquer à vos pieds qui dépassent sous la couette. En fait, le chat, c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, car il sème la terreur autant qu'il passe du temps sur vos genoux à ronronner.
Mais c'est pas du tout agréable, ça, comme relation avec son animal.
Oui, alors, mais sachez que c'est pas agréable non plus pour lui, car en fait, il est véritablement angoissé. C'est ce qu'on appelle l'anxiété du chat en milieu clos. Alors, boulimie, toilettage excessif, diarrhée, onde de tremblement à la surface de la peau peuvent aussi venir compléter le tableau précédemment décrit. l'esprit. Et ce trouble du comportement apparaît souvent chez les chats qui vivent en appartement, alors qu'ils ont eu auparavant un accès à l'extérieur. En gros, il est confiné, le chat, et il ne supporte pas. Alors, s'il n'a pas accès à l'extérieur, s'il ne peut pas chasser, si vous ne lui proposez pas en plus assez de jeux pour décompresser, eh bien, finalement, il va trouver lui-même des substituts, tels que vos pieds, vos chevilles, parfois vos mains, qui sont finalement eh bien, les parties de votre corps les plus animées.
Bah, si c'est le confinement qui le rend fou, on ne peut que le comprendre maintenant. Alors, ce serait quoi les solutions?
Alors, bien sûr, la solution idéale, vous l'avez compris, hein, ça serait de faire sortir son chat. Maintenant, si c'est impossible, il va falloir enrichir le milieu dans lequel il vit. Donc, inventer des jeux de toutes sortes, des jeux en solo ou bien des jeux que vous pouvez partager avec lui. Diversifier régulièrement les jeux. Créer de nouveaux espaces pour qu'il puisse développer un comportement exploratoire. Placer des distributeurs alimentaires qui lui demandent réflexion et agilité. Bref, sortez-le de sa routine.
Et quand le chat est agrippé à notre cheville là, pendant son fameux quart d'heure de folie, qu'est-ce qu'on fait?
Alors surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est se mettre à crier ou alors à agiter la jambe pour qu'il se décroche. Pourquoi? Parce que cela ne fera qu'augmenter son excitation et il va renforcer sa morsure comme avec une proie en fait qui continue à se débattre.
C'est un cauchemar, Hélène.
Avant l'épuisement, c'est ça. En fait, ce qu'il faut, c'est essayer de le repousser calmement. C'est pas évident, hein, mais essayez d'intégrer ça quand il vous attrape. Poussez-le calmement avec l'autre pied sur le flanc. En fait, il va se sentir décontenancé de voir que sa proie imaginaire lui tient tête et surgit à un autre endroit. Ne le punissez pas parce que cela ne fera qu'amplifier son stress. En revanche, redirigez son comportement de prédation vers un objet comme une balle ou un bouchon, par exemple, un objet auquel il a le droit. Et si cette anxiété est installée depuis longtemps, eh bien sachez que votre chat peut présenter un état proche de la dépression et vos relations être vraiment altérées. Donc dans ces cas-là, votre vétérinaire pourra mettre en place un traitement médical pour normaliser son humeur et pacifier vos relations tout en apportant les modifications de son environnement que j'ai citées plus haut. Parfois, chez certains chats, eh bien il faut carrément les placer ailleurs. Il faut qu'ils aient accès à l'extérieur. Donc, dans ces cas-là, essayez de trouver un voisin ou quelqu'un dans votre famille qui pourra offrir un accès à l'extérieur à votre animal.
Bah écoutez, merci beaucoup Hélène.
Merci,
à la semaine
Julia.
Prochaine.
Au revoir, Julia, bon week-end.
Unique, tout comme le Gus qui arrive tout de suite. Il est totalement unique et irremplaçable. C'est évidemment Jean-Baptiste Giraud qui nous rejoint pour ses questions au saut du lit. Les filles, faites-lui de la place là. Il en prend un peu quand même.
On s'écarte.
Allez, hop, poussez-vous.
RTL. Question au saut du lit, Jean-Baptiste Giraud.
Et il est là, il est très très beau, en cravate, en habit du dimanche même. Bonjour Jean-Baptiste Giraud.
Ah ben moi, quand je travaille avec Julia, je me fais forcément beau. Vous êtes belle, je suis beau, on fait la paire.
Très bien.
Vous partez en vacances cet été, ma chère Julia?
Oui.
Au bord de la mer, comme beaucoup de Français chanceux?
Oui, je vais avoir la chance d'aller mettre les pieds dans l'eau, mais plutôt l'eau assez fraîche. Alors, je dois dire à nos auditeurs, je veux leur dire toute la vérité, vous m'avez écrit une relance où j'étais censée dire « J'adore le goût du sel sur mes lèvres, je trouve que ça n'a rien à voir avec les lacs un peu insipides. Le sel, c'est la vie. » Mais moi, vivante, je ne dirai pas cette réplique. Donc, débrouillez-vous. Oui, je vais aller au bord de la mer.
Vous aimez
qu'est-ce qu'on
pas
en fait
du
maintenant
tout. Qu'est-ce qu'on fait? On se débrouille, on rame, hein. On rame dans un océan de mer d'eau salée. Moi, aujourd'hui, je voulais vous faire deviner, ma chère Julia, pourquoi la mer est salée. Mais alors, si vous ne m'aidez pas, je ne vais
pas
vous faire deviner ça.
Mais ça me va très bien.
Ça vous plaît comme question?
Mais alors, pourquoi la mer est salée?
Eh bien, bonne question. Top chronomètre. L'eau douce n'est pas vraiment douce. En réalité, elle est aussi salée, ma chère Julia, mais très, 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 très légèrement. C'est d'ailleurs pour ça que sur les bouteilles de minéral, vous savez, il y a marqué sel minéraux, et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'elle s'appelle eau minérale. Bah, elle est minérale parce qu'elle est très légèrement salée. Réponse numéro 2, c'est Renaud qui l'a dit, la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. C'est bien évidemment des centaines de millions d'années de vie maritime aquatique et des milliards d'animaux marins morts dissous dans la mer qui ont lentement mais sûrement salé l'eau de mer.
C'est affreux, ça.
Plus il y a de vie, plus l'eau est salée. Voilà pourquoi la Méditerranée est plus salée que l'Atlantique par exemple.
Non.
Réponse numéro 3, les mers et les océans ont recouvert des millions de kilomètres carrés de terre en fusion du temps où notre planète n'était pas bleue mais recouverte de volcans crachant du soufre, du chlore et plein d'autres sympathiques choses acides. À cela s'ajoutent des milliers de sources d'eau chaude salée réparties un peu partout sous la mer et à cela s'ajoutent encore des millions d'années d'écoulement de fleuves très très légèrement salés dans la mer. Trois possibilités.
Je pense que c'est la réponse 3 pour la simple et bonne raison que si c'est ça que vous avez inventé, si ça sort de votre cerveau, vous êtes vraiment un génie.
Et tout sort de mon cerveau en fait, à chaque fois j'invente toutes les réponses, vous savez bien, il n'y en a aucune qui est la bonne. Bon, en fait ma chère Julia, toutes les réponses sont un peu vraies, parce
ah
que
bon
Oui, bah, bien sûr, l'eau douce n'est pas totalement
salée. Oui, c'est
salée.
D'accord.
La vraie bonne réponse, c'est la réponse 3, Julia.
Ah, quand même.
Mais oui, c'est bien évidemment parce que l'activité volcanique de la Terre, d'accord, qui a acidifié les eaux des mers et des océans, a arraché du sodium aux roches sous-marines. Et le sodium, comme vous le savez, c'est le sel. Mais c'est vrai aussi que les fleuves, charriant pendant des centaines de millions d'années, je dirais même des milliards d'années, des sels minéraux en quantité infime, bah, ces sels minéraux, il a bien fallu qu'ils se retrouvent quelque part. Ils sont aussi tombés dans la mer. Et puis, bah, y a aussi les poissons, effectivement, les animaux, quand ils meurent dans la mer, parce que c'est
non,
là qu'ils
arrêtez,
meurent.
Arrêtez, voilà.
Bon, j'en parle pas au déjeuner.
Mais en revanche, expliquez-moi pourquoi la mer Rouge ou la mer Morte sont beaucoup plus salées que les autres. Est-ce que c'est parce qu'elles sont plus anciennes?
Ah ben non, c'est beaucoup plus simple, Julia. La mer Morte, en réalité, est un lac à la frontière entre Israël et la Jordanie. Mm-hmm. Un lac installé clairement sur des terres chargées en sodium, c'est-à-dire donc en sel. Et comme ce lac n'est alimenté par aucune rivière, source d'eau douce, et ne communique pas non plus avec la mer, eh bien son taux de salinité ne fait qu'augmenter à travers les âges, au fur et à mesure de l'évaporation de son eau. L'eau de la mer Morte est 10 fois plus salée que celle de l'Atlantique.
Et pour la mer Rouge, parce que là pour le coup c'est pas un lac, c'est une vraie mer reliée à l'océan.
C'est vrai, c'est une vraie mer, mais d'un côté on a le canal de Suez, c'est un tout petit trou, et puis de l'autre, eh bien on a le détroit du golfe d'Aden, qui s'appelle en fait détroit de Bab el Mandeb, et là, bah, au plus large il y a 30 kilomètres, mais évidemment, avant que l'eau se renouvelle dans la mer Rouge, ça peut attendre. L'eau de la mer Rouge est encore plus salée que celle de la mer Morte.
C'est dans cette mer qu'on tient à la surface de l'eau, comme si on était
exactement,
sur un matelas.
Exactement, vous flottez, okay. Vous ne mettez pas de matelas et vous flottez quand même.
Bon, très bien, merci pour tout ça.
Bonnes vacances à la mer.
À très bientôt Jean-Baptiste.
5h, 7h,
RTL Petit Matin Week-end,
avec Julia Molko.
Et on a de la chance parce qu'on a Corinne qui nous écrit depuis le Vietnam. Alors tenez-vous bien, pour elle il fait 33 degrés et cet après-midi ce sera plage. Et oui, bah oui, on n'a pas toutes les mêmes après-midi. Appelez-nous et venez jouer avec nous au Pacomago. Je vous promets que mes questions seront beaucoup moins difficiles et techniques que celles de Jean-Baptiste. Parce qu'autant vous dire qu'il a perdu les fils, là, elles sont complètement en PLS. Mais en même temps, je sais beaucoup moins de choses que lui. Donc c'est facile de faire plus simple. Mais le Pacomago, ce sera vers 6h45 et c'est à ne pas manquer. Mais tout de suite, on tend l'oreille parce qu'il est l'heure de l'horoscope de Christine Haas. Bonjour Christine.
Bonjour Julia et bonjour à tous. Cancer, Vénus entre dans votre deuxième secteur, celui du confort matériel, de l'argent et des besoins affectifs auxquels elle va donner plus d'importance que jamais, premier décan. Lion, bienvenue à Vénus dans votre signe, premier décan jusqu'au 5 juillet. Pas de dissonance, donc vous serez l'amoureux idéal, car vous ne serez pas avare de vos sentiments. Vierge, troisième décan, du 13 au 22 juillet, Vénus sera conjointe à Mars et il est possible que vous tombiez sous le charme de quelqu'un qui, hélas, n'est pas libre. Ou que vous pensiez avec amour à une personne qui vous plaît mais qui ne le sait pas. Balance, Vénus en Lion est bien placée pour vous, elle fait vibrer votre fibre amicale et vous voit concrétiser un projet à deux si vous êtes en couple et avec du plaisir au menu. Scorpion, ça va chauffer pour le troisième décan avec Vénus en Lion du 13 au 22 juillet. Elle sera conjointe à Mars et peut autant provoquer un coup de cœur qu'un coup de gueule, même si vous adorez l'autre. Sagittaire, dans l'ensemble, les trois décans seront satisfaits de Vénus en Lion, surtout parce que vous serez en confiance avec l'autre et que vos sentiments s'épanouiront. Entre aujourd'hui et le 22 juillet, elle aura traversé les trois décans. Capricorne, en signe de feu, le Lion, Vénus vous conseille de montrer vos sentiments en dépit de vos réticences. C'est ce qu'il faut faire si vous voulez stimuler votre partenaire, parce que Vénus en Lion, elle est aussi très sexuelle. Verseau, face à vous dans votre secteur relationnel, Vénus va créer une très agréable ambiance avec une harmonie dans le couple ou de chaleureuses rencontres. Elles seront faciles hein, pour le premier décan. Poisson, né en février, Vénus vous regarde jusqu'au 5 juillet et donne à vos amours un côté un peu trop ritualisé. Si vous voulez des frissons, sortez de votre zone de confort. Ne répétez pas tous les jours les mêmes gestes, tous les mêmes mots. Bélier, Vénus en Lion est généralement très appréciée chez tous les béliers, même s'il s'agit tout simplement de séduire quelqu'un ou de reséduire votre partenaire. Vous n'aurez pas beaucoup d'efforts à faire. Taureau, troisième décan, la réunion de Vénus et Mars entre le 13 et le 22 juillet, je vous le rappelle, risque de provoquer une grosse dispute en famille. Essayez de ne pas être trop inflexible avec vos proches. Gémeaux, vous serez très apprécié par votre entourage et par quelqu'un en particulier avec qui vous ne pourrez pas cacher votre complicité. Premier décan jusqu'au 5 juillet. Bonne journée à tous et pour plus d'horoscopes, le 3210 ou rtl.fr.
RTL Petit Matin Week-end.
Julia Molcou.
Et on embrasse Annie à Annay dans le nord de la Nièvre qui nous dit que le ciel est nuageux mais que la température est douce et qui en profite pour faire un bisou à Josette et à René. Bah nous aussi, on embrasse Josette et René. Voilà, c'est dit. Dans la dernière demi-heure de ce petit matin du week-end, nous jouerons au Pacomago. Ce sera pas faute de vous l'avoir répété. Si vous ne vous êtes pas inscrit, vous ne pourrez pas gagner. Et puis à la fin, nous irons réveiller Patchy qui signe son grand retour avec cet album de chansons entièrement traduit en basque, sa langue maternelle. Je suis venue te dire que je m'en vais en basque. Pardon, mais c'est quand même un joli moment de poésie. Vous n'êtes pas assez sensible. Mais voilà que je vois entrer Agnès Bonfillon en studio. Alors je sais que c'est l'heure des informations. Bon réveil à tous, vous êtes sur RTL, il est 6h30. Et le journal, c'est avec vous Agnès Bonfillon, bonjour.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Alors finalement, la fête n'a pas eu lieu.
Le grand test qui devait avoir lieu en discothèque à Paris cette nuit a été annulé. Des milliers de personnes étaient conviées à danser dans deux boîtes de nuit parisiennes pour analyser la circulation du virus. Mais pas assez de participants, Sébastien Rouxel.
Oui, pour que ces résultats soient concluants, l'étude devait réunir 4400 volontaires, des franciliens âgés de 18 à 49 ans, sans comorbidité et surtout complètement vaccinés depuis deux semaines minimum. C'est sans doute ce dernier critère qui a posé le plus de problèmes. Cela fait moins d'un mois que la vaccination est ouverte à tous les adultes. Alors, les organisateurs comptaient sur la mobilisation des étudiants en médecine, des personnels des hôpitaux de Paris. Eux ont déjà reçu leurs injections depuis plus longtemps, mais le délai, seulement 3 jours pour recruter tous les participants, s'est avéré trop court. On ne sait pas encore combien de personnes il manquait. On nous promet plus de précisions en début de semaine prochaine. En attendant, les organisateurs ont été contraints de reporter cette première nuit en discothèque, sans masque, sans distanciation ni jauge. Mais rassurez-vous, aucune incidence sur le calendrier. Les boîtes de nuit rouvriront bien comme prévu le 9 juillet prochain.
Sébastien Rouxel pour RTL, un retour à la normale qui pourrait être ralenti par le variant Delta. Alors que certains pays appliquent à nouveau un protocole strict, en France, 2 patients sont décédés dans le Gers à cause de ce variant. Âgés de 42 et 60 ans, ces personnes n'étaient pas vaccinées, avaient des facteurs de risque et donc étaient porteuses de ce variant.
Le Covid qui n'a pas suffi à expliquer l'abstention la semaine dernière.
On le rappelle, 2 électeurs sur 3 ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour le deuxième tour des régionales et départementales aujourd'hui? Ouverture des bureaux de vote tout à l'heure à 8h. Concernant les enjeux, les résultats, eh bien les projecteurs sont braqués sur certaines régions, ou plutôt une région, William Galibert.
Oui, et il y a un seul duel au programme, ce sera l'affiche de la soirée électorale, l'affrontement Renaud Muselier Thierry Mariani en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dimanche dernier, c'est le RN qui est arrivé en tête avec un peu moins de 5 points d'avance sur le candidat de la droite. Dans toutes les autres régions, à chaque fois, les sortants sont pour l'instant devant et vont tenter de rempiler. Ce sera le cas notamment de Valérie Pécresse en Ile-de-France face à l'Union de la gauche emmenée par Julien Bayou, face au RN Jordan Bardella et face au marcheur Laurent Saint-Martin. Dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand affronte le candidat du Rassemblement national Sébastien Chenu et l'écologiste Karim Adeli. Et dans plusieurs régions, le résultat semble encore très incertain. C'est ce scénario qui se dessine en Bretagne, où 5 listes restent encore en lice. Incertitude aussi en Bourgogne-Franche-Comté, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire.
William Galibert du service politique de RTL, comme la semaine dernière à partir de 18h, soirée spéciale sur notre antenne. Vincent Parisot passera le relais à Thomas Soto de 19h à 23h avec tous nos correspondants en région bien évidemment. Au moins 5 personnes sont décédées dans l'effondrement d'un immeuble à Miami. Le bilan pourrait encore s'alourdir. 156 personnes sont toujours portées disparues. On passe au sport avec le Tour de France et l'homme qui ne rate jamais un rendez-vous. Hier, pour la première étape de la Grande Boucle, Julien Alaphilippe s'est imposé à Landerneau. Il sera donc en jaune aujourd'hui entre Perros-Guirec et Mur de Bretagne. Sachez qu'après la grosse chute du peloton hier à 45 km de l'arrivée, l'organisation du Tour va porter plainte contre la spectatrice qui a brandi une pancarte en piétant sur la chaussée.
Et nos basketteuses sont en finale de l'Euro.
Oui, pour la 5e fois consécutive, après leur victoire face à la Biélorussie hier 73-61, elles affronteront la Serbie ce soir. Un petit air de revanche. Hier, en tout cas, les Bleus ont été exemplaires à l'image de leur capitaine Indy Miem.
J'avais vraiment envie qu'on aille en finale, j'avais envie de tout faire pour qu'on y aille. J'ai pris les shoots que j'avais. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, je l'ai peut-être vu un petit peu plus grand que d'habitude, le cercle. Donc tant mieux. Après, je sais que les filles me disaient « shoot, shoot, shoot ». Donc j'avais vraiment carte blanche. Elle me faisait extrêmement confiance. Donc voilà, on sait que dans ces moments-là, faut pas trop se poser de questions. Et je pense que si ça avait été une autre, ça aurait été la même chose. On sait que s'il y en a une qui est chaude, il faut justement peut-être appuyer sur... À cet endroit-là, donc je pense que c'est ce qu'on a fait.
Indy Miem avec Yannick Holland pour RTL, coup d'envoi de la finale ce soir à 21h. Et demain, à la même heure, autre sport, autre Euro, nos footballeurs affronteront la Suisse en 8e de finale. Hier, deux premières équipes qualifiées. Pour le Danemark, c'est passé facile, 4-0 face au Pays de Galles. En revanche, l'Italie s'est fait très peur face à l'Autriche. La délivrance est arrivée in extremis en début de prolongation, score final 2-1.
La météo, Agnès, c'est un peu la même qu'hier.
Exactement, une nouvelle fois des pluies orageuses d'ouest en est. Seul le pourtour méditerranéen et la basse vallée du Rhône seront épargnés. Mais il faudra compter sur un mistral assez fort. Et puis dans l'est, avant l'arrivée des orages, attention, bonne nouvelle, la matinée devrait quand même voir quelques belles éclaircies. Les températures sont toujours un petit peu fraîches pour un mois de juin. Cet après-midi, par exemple, il fera 17 à Mimizan, 20 à Nantes, 21 à Paris, 23 à Avallon, 26 à Montpellier, 29 à Colmar, 30 à Ajaccio, 32 à Perpignan.
Et on termine ce journal avec les courses qui ont lieu à Vincennes cet après-midi.
Les pronostics sont signés Dominique Cordier. Les voici: le 5, le 15, le 10, le 12, le 7, le 6, hélas. Dernière minute, le 10, Carnaval du Vivier.
Merci beaucoup Agnès, on vous retrouve à 8h aux côtés de Stéphane Carpentier. Quant à nous, on marque une toute petite pause avant de retrouver Philippe Bouvard.
Réveillez-vous avec Julia Molcou sur RTL. RTL Petit Matin Week-end, 5h-7h,
Julia Molcou.
Bonjour Philippe.
Salut ma chère Julia. Bonjour vous tous. Eh bien, à mon avis, à mon humble avis, cette surinformation dont nous sommes tantôt fanatiques, tantôt victimes et parfois les deux, est à prendre avec des pincettes car elle s'abreuve très souvent aux sources délétères des fake news. Alors traduisez en français, les fausses nouvelles qui sont inspirées par le mauvais goût, par la sinistrose et par la méchanceté. La première du genre, et non la moindre, remonte à 1938. Cette année-là, le très jeune Orson Welles avait décrit avec une telle précision, de tels détails, le débarquement des Martiens sur Terre qu'il avait provoqué une énorme panique chez une foule de citoyens ayant pris pour un reportage en direct ce qui était un canular radiophonique. Avec le recul, nos bons vieux poissons d'avril font figure d'ancêtres timorés. Quand les Anglais sont entrés dans l'Union européenne, on avait annoncé que désormais les Français devraient rouler à gauche. Alors, plus étonnant, lorsque, en 1972, de la santé, la fausse interdiction de fumer dans les lieux publics, sans le savoir, on anticipa de 35 ans la vraie décision. Désormais, tous les mensonges sont bons. Françoise Hardy est morte et Michael Jackson est toujours vivant. La pandémie a suscité le pire. En 2003, le coronavirus s'est échappé d'un laboratoire de l'Institut Pasteur. Et méfiez-vous des masques. Ils sont imprégnés d'anesthésiens lorsque les malfrats les distribuent gratuitement à des bourgeois qu'ils vont ensuite cambrioler tranquillement. Les politiques n'en sortent généralement pas grandis. Les étudiants en médecine doivent recevoir le même jour 3 injections d'AstraZeneca, rebaptisées François Bayrou, en raison de son manque de performance. Et puis, en soutien à Emmanuel Macron, tous les Français sont invités à se gifler eux-mêmes chaque soir à 20h. La palme revient, un Trump a été réélu. Une fausse nouvelle, mais à laquelle, 6 mois plus tard, 50 millions d'Américains croient toujours. Ma retraite était elle aussi une fausse nouvelle, puisque grâce à la confiance renouvelée de Nicolas Taverneau et de Régis Ravanas, les deux grands Manitou de nos ondes, je pourrai encore vous retrouver à partir du 28 août prochain. Une 54e prolongation qui me cause autant de plaisir que ma première embauche. Alors cela dit, jamais je n'ai autant regretté d'avoir professé naguère que pour qu'une fausse nouvelle devienne vraie, il suffisait d'attendre un peu. Enfin, c'était mon avis, rien que mon avis, mais je ne le partage plus du tout. Bonnes vacances!
Bonnes vacances à vous aussi, Philippe. Bonjour à tous, il est 6h41, vous êtes sur RTL et c'est une excellente idée. Appelez-nous, mais oui, appelez-nous si vous voulez jouer au Pacomago. Ce sera dans quelques minutes maintenant. C'est au 3210 que ça se passe, avec Oriane ou par SMS au 69-400, c'est ça, Oriane ?
64-900.
64-900, merci Oriane. Je voulais juste vérifier qu'elle suivait et en effet, elle suit. On fait un petit tour du côté de ma chanson préférée au monde, presque. Allez, c'est parti. Une chanson de 1981, c'est vrai que c'est une des chansons que j'aime le plus. C'est vrai aussi que je la connais par cœur. Et je ne sais pas si vous le savez, mais ce titre est considéré comme le premier rap français. Et il a été produit par... Vous le savez ou pas ?
Aucune idée.
Non. Et bien par Patrick Bruel. Patrick Bruel, très grand fan de rap, qui est rentré de New York, qui a eu envie de produire un truc en France, qui pouvait pas le chanter lui-même. Bref, l'histoire est un peu longue, je vous la raconterai une autre fois, mais elle est vraie. On marque une courte pause, il va vous rester quelques secondes là pour nous appeler, pour vous inscrire au Pacomago, parce qu'après, il sera trop tard. À tout de suite.
RTL Petit Matin Week-end.
Julia Molko.
Mesdames et messieurs, c'est l'heure du Pacomago.
Mais tu m'as même pas laissé le lancer, c'est mon moment préféré. Bon, alors ça y est, vous n'appelez plus, vous avez compris. Nous avons nos deux candidats et nous allons jouer au Pacomago. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Comment allez-vous ce matin ?
Eh bien ça va, je vous remercie beaucoup.
Vous nous appelez d'où Françoise ?
Alors, je vous appelle de la Varenne-Saint-Hilaire à Saint-Maur-des-Fossés, dans le 94.
Eh bien, soyez la bienvenue, Françoise. On est très contente de vous avoir avec nous pour jouer au Pacomago. En face de vous, un adversaire de taille, Françoise. Bonjour, Michel.
Bonjour, Oriane.
Alors non, moi c'est Julia, alors non. Mais c'est pas grave, Oriane est là aussi. Mais attendez, on est 4 filles, c'est impossible de faire le tri. Aurélia, Béatrice, Oriane, Julia, ça fait trop. Bonjour Michel, soyez le bienvenu, vous nous appelez d'où ?
De Montureux-sur-Saône, dans les Vosges, donc voisin de Antoine Griezmann, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure.
Ah ben c'était Oriane qui vous l'avait dit tout à l'heure à nouveau Michel. Moi je ne vous ai pas encore eu au téléphone. Mais très bien Michel, vous êtes donc le voisin d'Antoine Griezmann, super. Bon, est-ce que vous êtes prêts Michel et Françoise ? Est-ce qu'on peut commencer ?
Avec un J comme
toi. Ok, génial, avec un J comme toi. Allons-y. Vous êtes prêts ? Première question, c'est parti. Top, de quelle ville est partie la première étape du Tour de France hier ? Caen ou Brest ? Brest ? Qui a créé Brest ?
Brest.
Je crois que c'est Michel.
Ah, c'est Michel.
Il me semble.
Ok, alors un point pour Michel, très bien. Françoise, ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous rattraper. J'espère que vous nous avez écouté depuis le début, parce que là c'est une question qui... Bon, vous allez être très très aidé si vous nous avez écouté depuis le début. Deuxième question, on y va. Comment s'appelle cette commune de Loire-Atlantique qu'Aurélia ne connaissait pas ? Est-ce Port-Chinet ou est-ce Port-Nichet ?
Port-Nichet.
Oui ! Un point pour Françoise. Écoutez, là on était à égalité.
Elle est meilleure que moi.
Je vais devoir...
Je m'en fous, j'aime les framboises.
Bon, d'accord, très bien. Moi, j'ai pas compris le rapport, Michel, mais ok. Allez, on y va avec la dernière question pour vous départager. Attention, Françoise, concentration. Qui la France affrontera-t-elle demain en huitième de finale de l'Euro ?
La Suisse.
Oh, Michel, vous êtes trop fort. Bon, Michel, vous êtes un sportif, ouais.
Oui, voilà, c'est ça.
Ouais, Françoise, je suis désolée, mais je ne vais pas vous laisser partir comme ça, Françoise.
C'est pas grave.
Oriane va s'occuper de vous, on va trouver quelque chose. Quant à vous, Michel, bravo. Vous avez gagné deux places pour aller voir l'exposition Enki Bilal. Ce sera à Landerneau, ça vous permettra de faire un petit voyage en France cet été. Vous nous direz si vous avez aimé l'expo. Merci à tous les deux d'être venus jouer avec nous ce matin sur RTL. On vous embrasse très fort. À bientôt.
Vous êtes au top, RTL.
Merci.
Et bonne journée à tous.
Merci, bonne journée à vous, Françoise. Au revoir,
au revoir
Michel.
Au revoir,
à bientôt. Au revoir, au revoir.
RTL, Weekend de Star.
Eh bien, quant à nous, nous allons partir maintenant dans le sud-ouest de la France, là où il fait si bon vivre entre mer et nature et là où dort encore tranquillement le chanteur Patchy. Bonjour Patchy, c'est Julia Molcou d'RTL.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Ça va, ça va. Ça pique un petit peu le matin, mais ça va.
Comment on dit bonjour en basque ?
On dit Egunon. Egunon.
Egunon. D'accord.
Voilà, magnifique.
Bah, Egunon, Patchy. Vous êtes où là ? Vous êtes au Pays Basque, justement ?
Oui, exactement, à Biarritz.
D'accord.
Avec le soleil.
Ah, vous avez de la chance. Racontez-nous un peu, c'était comment les dimanches de votre enfance au Pays Basque, justement ?
Ah, le dimanche, on faisait un peu ce qu'on voulait, quoi. C'est-à-dire que les parents se reposaient, donc nous, avec ma sœur, on jouait dehors, on allait jouer à la pelote. Et puis le midi, on allait souvent déjeuner dans le restaurant de ma tante. Donc on prenait la route, et puis dans la voiture, on chantait des chansons.
Et alors déjà, on chantait quoi dans la voiture ?
On chantait des chansons en basque.
Oui, bon, j'aurais dû m'en douter.
Ouais. Ah bon, on était enfants, donc vraiment, c'est des chansons qu'on apprenait à l'école.
Mais lesquelles, par exemple ? Moi, là, je comprends pas bien. Il faut m'en chanter une petite, là.
Lelo, lelo, vetico, lelo, guta sida tuta, la chayerino.
D'accord.
Par exemple.
Ok. Et vous alliez au restaurant de votre tante, et là, vous commandiez quoi ? C'est quoi le plat typique et familial ?
Ah, le dimanche, c'était assez simple. Le dimanche, c'était souvent des œufs et de la ventrèche à Rolsé, quoi, ça s'appelle comme ça. Schingarta Rolsé, c'est ça qu'on mangeait souvent. Ça, c'était plutôt le dimanche soir, quand on n'avait pas trop envie de cuisiner. Et puis au restaurant, sinon, c'était vraiment... Il y avait tout qui passait, quoi. Il y avait du poisson, il y avait...
C'était joyeux,
quoi. Au Pays Basque, on aime bien manger. Ouais, ouais. Au Pays Basque, on aime bien manger et on aime bien profiter de la vie. Donc c'est vrai que c'était voilà, le soir, c'était plus léger, pour le coup.
Mais ça existe, le cafard du dimanche soir, au Pays Basque, ou même pas ?
Non, mais c'est impossible.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce qui me semblait.
Non, c'est pas possible. Non, on va voir la mer, ou on va marcher dans la montagne, et puis tout de suite, ça va mieux.
Vous avez sorti un album de reprises de grandes chansons françaises en basque, il y a quelques semaines. Album
oui.
Sur lequel on trouve « Je suis venu te dire que je m'en vais »,« Caravane » de Raphaël, qui se dit donc « Caravana », ou encore « Aline », et puis bien sûr « La grenade » de Clara Luciani.
Comme tous... Bularanes tanda, bularanes kesha, bularanes tanda.
C'est très réussi, Patchy, cet album. Est-ce qu'il y aura un volume 2 ?
Et pourquoi pas, oui. Peut-être un volume 2 avec des chansons internationales. Voilà,
ah
du
ouais.
Dylan en basque, du Lady Gaga en basque, voilà, pourquoi pas. Ça pourrait être une bonne idée.
Vous êtes en train d'y penser ou vous êtes en train de travailler ?
Là, d'abord, je vais sortir un album en français l'année prochaine qui s'appelle Biarritz. Et puis ensuite, pourquoi pas revenir avec un album de reprise en basque.
D'accord. Mais écoutez, voilà. Moi, je suis pas contre Lady Gaga en basque. Mais ça donnerait quoi, par exemple, Poker Face Ça existe en basque, Poker Face?
Comment on dirait Poker Vichaya. Bon, il faudra travailler un peu sur les pieds parce qu'il y a trop de pieds là.
Ouais,
je réfléchis un peu.
Ouais, je crois que ça va pas être simple. Bon, merci infiniment, Patchy. On écoute
merci.
Quoi pour bien commencer ce dimanche? Allez, sur votre album, laquelle on lance ?
Oh, mais mettez Caravana, parce que ça donne envie de se réveiller en douceur, et puis de se lever, et puis d'aller voir la nature et de marcher dans la montagne.
Et bah, c'est ce qu'on va faire, même si pour nous, la montagne, c'est quand même pas tout près. Merci infiniment, Patchy, passez un excellent dimanche. À bientôt. Au revoir, Patchy.
Begiak guztiak ditut zure eskua galtzean nik ere bai Otza dut Gabezia sentitzean Bidean berriz bagoaz Gauaz eta egunaz Zorabioa munduan Eta nekea buruan Go.
Chiquito. Gertatzen ez bada, justizia izango da, karabanuntan sortu naiz, baina goizean bagoaz.
Repris de très très grands tubes en basque, en provençal et même en turc. Son album ne devrait plus tarder. De toute façon, cet homme sait tout faire, on ne va pas le répéter à chaque fois. C'est le meilleur d'entre nous. Bonjour Stéphane Carpentier.
Bonjour Julien.
Vous pourriez nous chanter quelque chose?